On est juste qu'on se met en place, on arrête de dormir sur cette berceuse.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 24 octobre 2009. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farah, à 17h, FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le croc de boucher que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Vous avez 72 ans, vous êtes passé par tous les styles. Comment vous êtes venu à la bande dessinée ?
Penchant naturel. Quand j'avais 3-4 ans, dès que j'ai su tenir un crayon, j'ai commencé à faire des griffonnages et puis je me suis obstiné et voilà, j'y suis encore.
Radio FMR présente... Le supplément week-end, le magazine des cultures geeks, avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Et ça me fait rire, la participation exceptionnelle de JB. Tu penses que du sport à 10h59 pile, il m'a dit j'ai rien, mais j'arrive, il y aura du contenu. Et il va faire 3 heures d'émission quand même. Hein.
Oui, mais normalement JB devrait passer aujourd'hui.
Humour. L'intro qu'on a entendu, c'était l'interview donc de Paul Gillon, enregistré en 98. Donc, maintenant il a 83 ans et il continue à sortir un bouquin, il continue à faire de la bande dessinée, il vient de sortir un album donc, c'était l'interview qu'on a entendu, donc qu'on a diffusé il y a 15 jours puisque la semaine dernière on n'était pas en direct, j'ai oublié le nom, voilà, ça m'apprendra.
Paul Gillon.
Non, du bouquin. Ah, c'est oui. Un troisième tome, il y en a un quatrième et le problème de Paul Gillon c'est que maintenant il a atteint d'arthrose, il a de plus en plus de mal à dessiner plus de 30 minutes. Et c'est un ami commun qui nous a dit hors antenne, c'était Vric qui disait hors antenne, ouais mais pour ce qu'il dessine, il lâche des traits et tout, c'est hyper technique mais en même temps il suffit d'un trait, ça suffit, c'est expressif, il a une telle virtuosité, il a pas trop à s'embêter.
Ça dépend, c'est lui qui fait l'ancrage ou l'aide des assistants ?
Non, il le fait tout seul.
Ah d'accord. Bon.
Et des fois, il n'utilise même pas de crayon. Il m'a dit, non, ça me permet d'aller plus vite, de travailler direct à l'encre.
Bon. D'accord.
D'accord.
C'est simple, la BD.
Oui. Une telle virtuosité, qu'est-ce qu'on a à dire ? Et encore, il faisait ça uniquement s'il avait besoin de se faire du pognon. Après, le reste, il faisait la fête dehors. Et puis voilà, zou. Le croc de boucher promis juré craché non ne sera pas là c'est juste pour rien, je sais pas, j'avais envie de sortir cette expression si on est en pleine explosion littéraire, même si on est encore dans la crise, on n'est même pas encore en convalescence, et pourtant il y a encore un programme de dédicace absolument effarant. On aura par exemple Icar, qui avant dessinait Jeepster sous le nom de Francard. Icar donc dessine actuellement Terre Lointaine, qui est donc une spin-off de Andromède. Et il sera en dédicace vendredi prochain à la librairie Album à partir de 15h30-16h. Si vous allez le voir, juste une particularité, ça vous étonnera peut-être, mais il est sourd. Et pourtant, il lit très bien sur les lèvres, il n'y a aucun souci. Christophe Gibelin sera en dédicace le lendemain pour les Ailes de Plomb et Aero Artbook. C'est à Terre de Légende, c'est un petit peu plus loin. Donc samedi 7 à partir de 15h30-16h. Dimanche 15 à Ramonville, Saint-Agne, au parc technologique du canal, à la salle des fêtes, vous savez, là où il y avait les concerts du bikini auparavant. Ce sera la bourse de la bande dessinée, c'est une bourse d'échange d'occasion. Je crois que c'est cette année que sort le BDM. Donc ça devrait arriver juste un petit peu après, mais comme par hasard, il y en a certains qui l'auront avant. Allez savoir comment. Alors comme par hasard, c'est les gros libraires d'occasion, je visais personne, notamment de La Rochelle, mais en général l'ambiance, quand on commence à voir les mecs se trimballer avec les gros bouquins et que c'est la nouvelle édition que personne n'a, il y a un silence de mort. Voilà, mais si vous voulez acheter des bandes dessinées pas chères ou revendre des bandes dessinées d'occasion, c'est l'occasion. Je l'ai pas fait exprès. Le troisième Toulouse Game Show aura lieu 28 et 29 novembre à La Beige avec Parker Lewis.
C'est sûr, La Beige ?
À La Beige, c'est ce qui est affiché sur leur site.
Oui, tout à fait, mais c'était pour savoir, pour te mettre
à Diagora. Non, j'en suis sûr.
C'est plus
un oui, c'est un running gag, oui, d'accord. je sais, ça vous éclate, hein, bande d'enfoirés. Et Serge Pelé, dessinateur de Orbital, dans le troisième tome, on l'a chroniqué la semaine dernière, un petit peu en quatrième vitesse, parce qu'on avait un programme extrêmement chargé. Ce sera samedi 5 décembre à Terre de Légende avec une expo de ses albums, de ses planches originales. Donc c'est un dessinateur qui, moi, me met littéralement à genoux. Parce que ce qu'il fait, et je crois que c'est sa première série, c'est à tomber, et le scénario aussi, alors que on s'est dit, ah mais non, mais il fait du Valérian là, il fait Naufrager du temps là, tel truc, etc. Et non, ça déchire tout, justement, toute cette historique dans la bande dessinée franco-belge, on pense bien évidemment à Lincal et à toutes ces séries, et ben il les a bien assimilées, il a vraiment un univers qui lui est propre, puis il y a aussi un scénario derrière qui est vraiment original et qui est absolument fabuleux, quoi. J'oublie une date peut-être, non ? Je sais pas, copain qui délicasse, un truc comme ça.
Non, c'est fini, là, c'est fini. À ma connaissance, c'est fini. Ouais.
En ce moment, ce week-end, c'est Saint-Malo.
Oui, bah il y aura grosse concentration de BDistes.
Bah oui, forcément, puisque c'est d'abord le cadre de Saint-Malo est fabuleux, c'est sur le port et voilà quoi, c'est magnifique. Je suis jamais allé, c'est vraiment un énorme regret de ne pas pouvoir y aller parce que vraiment c'est une autre ambiance par rapport à Angoulême, c'est vraiment le côté festivalier, c'est en plein air. En même temps, Saint-Malo, c'est en Bretagne.
Oui, il y a du vent là-bas. Moi, j'y suis allé l'année dernière, mais pas à l'occasion du festival. C'est voilà.
Voilà.
Après, la belle statue de Surcouf qui surplombe les remparts. C'est très joli.
Et donc, il y aura. Je sais qu'il y a tous les éditeurs ils vont en force. On a des nouvelles d'Ankama d'ailleurs.
Oui, mais. Ah oui. Bon, alors.
Non. C'est peut-être perso, je sais pas.
Non.
Ah, parce que c'est vrai que c'est un running gag chaque fois qu'on croise des mecs dans Kama. Je sais pas si vous vous souvenez de l'interview qu'on avait fait de Ancestral Z où c'était pas Tot, je sais plus qui c'est qui nous avait dit juste avant ah, vous le prenez en interview, bonne chance.
C'est Maliki,
oui, pardon.
Et on n'avait pas compris sur le coup et on a compris après.
On a compris après et on pouvait dire que le terme hyperactif et logoré infini.
Oui,
s'applique totalement à lui.
Disons que c'est quelqu'un de super bavard et qui.
Voilà, à côté, je suis calme.
Et qui chante, qui écoute de la musique de merde. Et même Todd nous a dit, ah, s'il écoutait Cognagara, ce serait bien. Et donc, il partait.
Ils sont pas trop, Todd. Hein.
Voilà, donc, ils partaient tous en train pour le festival de Saint-Malo. Et à la question, comment ils ont fait pour supporter Ancestral Z dans le voyage, ils ont dit, on lui met des vieux jeux vidéo, genre Tetris ou Game & Watch, et il est sage comme un pixel. Donc voilà.
J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette expression. Je trouvais que c'était très sympa. Ça. Et elle est super mignonne. Elle est encadrée. Voilà. Alix, et tu nous écoutes, on sait jamais. Avec le podcast ou le stream. Puisqu'en ce moment, j'enregistre sur le stream au cas où on ait une interruption d'enregistrement. Donc voilà. Hein, non, ça, bien, il marche.
On part à toute éventualité.
Il marche le
nous
stream.
Sommes professionnels.
www.radio-fmr.net pour nous écouter en direct le samedi et il est midi 9 minutes et 27 secondes. Ou en différé sur supplémentweekend.fr. Et pour écouter toutes ces archives et tout ça, faire vos recherches. Et on a de plus en plus inscrits, ça fait plaisir.
Ah bon ?
Oui.
Dans le club des audilecteurs ?
Ah oui.
Ça fait longtemps que je suis pas allé alors.
Ouais, moi aussi. Et j'avais pas trop avancé sur le site. Ben voilà, ça m'apprendra. Je suis désolé. Vous ne méritez pas notre confiance. Astérix, les 50 ans. On fait un dossier la semaine prochaine plutôt.
La semaine prochaine, d'accord.
Ok. Comme ça, oui, parce qu'on avait prévu des petites animations.
Mais ça dépend si le ciel nous tombe sur la tête d'ici là, si c'est aussi pourri que le précédent, on va voir.
De toute façon, j'ai un augure maya qui est bien gravé dans leur calendrier et qui a bien prédit que le ciel ne va pas nous tomber sur la tête.
Ça va alors.
Avant la sortie du film 2012 de Roland Emmerich. Voilà, et dans le calendrier maya, il est dit que tous ceux qui y participeront seront désormais définitivement catalogué Nanar 2.
En tout cas, bon, c'est pour le nouvel Astérix, comme le scénario est, il ressort d'un tiroir, un vieux scénario de Goscinny normalement, Ça devrait être moins pourri que les derniers.
Ouais, mais tu m'excuses, mais rien qu'à voir la une avec donc la statue en or.
Oui,
ça, ok. Mais le problème, c'est que l'on voit rire devant Astérix et Obélix. Jamais, ils ne rigolent, excepté pour le faire exprès, pour mimer aux Indiens ce que sont les Gaulois dans la Grande Traversée. Astérix et Obélix ne rigolent pas forcément.
Bah si.
Tu le... Et là, ils le mettent systématiquement en train de rire depuis que Uderzo a repris le scénario pour faire « C'est Franchouillard ! Venez au parc Astérix ! Vous allez voir, c'est génial !» Voilà.
En même temps, l'un des... Enfin, depuis Obélix et compagnie, où vraiment il faisait la gueule, et la zizanie, des trucs comme ça, on ne peut pas dire que les affiches soient foncièrement qui filent le bourdon non plus. Hein. Il y a beaucoup d'affiches où ils rigolent, où... Il faudra vérifier ça quand même.
Bon, allez, j'en prends un au hasard. Le domaine des dieux. On a un Astérix assez noir.
Domaine des dieux, ils font la gueule parce que voilà. Y a le domaine des dieux qui s'est construit à côté.
Enfin bon, tu me diras. Pour faire immobilier et tout ça. Enfin bon, on va passer à complètement autre chose. Avec les sorties bande dessinée. Et on va commencer par un extrait d'un mer béton.
De valeur que les pièces de monnaie. Après le chiffre 8 vient le chiffre 9. Et après l'hiver, c'est toujours le printemps. Tu es d'accord, Noir ? J'ai raison, c'est ça, hein ? Noir ? Quand le ciel devient sombre, tout sombre, quand il fait nuit, pourquoi je me sens triste ? Pourquoi j'ai le cafard ?
Extrait de la bande-son version française du fabuleux film de Michael Arias. Ça y est, j'ai pris le temps de le regarder. Je l'avais enregistré il y a un an. Et le film était à tomber. D'abord, la bande dessinée originelle. Bon, allez, je fais ma chronique. Il s'agit bien évidemment du nouveau bouquin dessiné par Taiyo Matsumoto, scénarisé par Issei Fuku. Le premier tome du Samouraï Bambou est sorti dans la collection Made in Shikana. Et on va peut-être vous mettre en place d'abord. Le samouraï est un guerrier ultime. Il a un art de vivre des manières. Sa maîtrise et le respect qu'on lui présente sont dus, pas uniquement... à sa manière de croiser le fer, dégainer sa lame vibrante. Et surtout au Bushido, car la voix du guerrier, traduction littérale de Bushido, est un art de vivre complet. Celui qui lui fait respecter la vie et un respect dû à son seigneur. Mais quand un samouraï n'a pas de seigneur, c'est un ronin, un errant, un soldat de fortune qui pourrait très bien virer au brigandisme. Il est en marge de la société féodale japonaise, un paria qui n'a droit au respect que par la menace, qui peut dégainer son sabre à tout moment. Soichiro Seno n'a pas eu de maître. Soichiro Seno, je prononce mal, excusez-moi, n'a pas de seigneur, pas de samouraï qui l'a initié aux arcanes de ce noble métier. Il ne fait partie d'aucune école, n'a même pas fréquenté de dojo. Ce qu'il connaît du sabre, c'est son père qui lui a appris. Il n'a pas d'armoirie, donc pas de seigneur, ce qui, immédiatement, le fait cataloguer comme louche dans la rue. Ses vêtements semblent usés, et en plus, il a un katana en bambou. Soichiro vient d'emménager dans un quartier, dans une maison miteuse, à la plus grande méfiance des voisins. C'est peut-être un enfant qui va l'aider à s'intégrer à la vie de quartier et qui va révéler ce qu'il est, un destin perdu. C'est un immense honneur que j'ai eu d'avoir interviewé Taiyo Matsumoto quand il était inconnu en France. Mais vraiment inconnu. La première édition d'un mer béton qui à l'époque était éditée par Tonkam dans un pavé en 3 tomes s'était vendue de manière absolument confidentielle, moins de 2000 exemplaires. Et pourtant graphiquement, il explosait les clichés de la manga. Lui qui par la suite est devenu fan de Nicolas de Crécy. Sa nouvelle série est un tournant graphique, parce que c'est vrai qu'il avait à peu près le même style quand il faisait Blue, sa série sur les ping-pong, ou celle sur les mafieux que l'on avait vu justement dans Un mer béton. Sa nouvelle série est donc un tournant graphique, Il garde des déformations délirantes du cadre, des éléments oniriques qu'il insère dans la réalité, des expressions transfigurées. Le dessin est un trait très fin. C'est très plus schématique. Un peu comme si Matsumoto avait repris le style graphique de l'adaptation au cinéma de son fabuleux Amer Béton, réalisé par Michael Arias. Mais en y collant le style graphique des grands illustrateurs d'Ukiyo-e. On pense immédiatement à des artistes du XVIIIe siècle, comme Tosushai, Shaharu. Je m'y connais pas suffisamment pour retrouver les références qui doivent sûrement foisonner dans ce super bouquin. Car une fois de plus, Taiyo nous impressionne en décrivant le monde de la rue, les petites gens et les parias, tout en nous invitant dans un monde graphique aux multiples références populaires de l'époque. Comme le dit le comte de Champignac, sabre de bois. Et Taiyo Matsumoto, enfin je sais pas, Thomas peut en parler peut-être parce qu'il est plus graphiste que moi de Amer Béton et de ses précédents albums, ou encore l'adaptation cinéma. Samouraï Bambou, ça tu viens de le feuilleter et déjà ça surprend hein, graphiquement.
Bah déjà, Amer Béton, la BD surprenait, le film d'animation est surprenait aussi parce qu'il était fidèle et qu'il était complètement dans l'esprit un peu inventif et expérimental de la BD. Et c'est là par contre, alors c'est une BD qu'il a faite après Amer Béton, ça.
Ah oui, non, mais ouais. Elle est toute récente. Amer Béton a 15 ans, 16 ans, et là, vient d'arriver en France, et est sortie il n'y a pas longtemps au Japon. Hein.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les personnages et son trait, en général, sont encore plus radicaux que dans Amer Béton, parce qu'en plus, là, comme c'est dans le Japon des samouraïs, donc il y a vraiment le cadre qui est fait au pinceau, les bulles aussi, sont faites, les cadres des bulles sont faits au pinceau aussi, donc tout est vachement expressif, et c'est vrai que les têtes sont vraiment encore plus radicales que dans Amer Béton, qui était déjà assez... enfin, c'est pas les têtes que tu vois dans les mangas, on peut reprocher aux mangas en général où tout est formaté. C'est vrai que là, le trait de Matsumoto en général n'obéit absolument pas à cette case-là.
Enfin, c'est encore une fois, justement, le contre-exemple parfait pour montrer que non, loin de là, arrêtez de fumer. Lui, c'est vraiment un artiste qui a une patte vraiment personnelle. Et là, justement, quand je parlais de Toshusai Shiraku. C'est un artiste, alors le nom évidemment est à sortir dehors, et sincèrement je l'ai cherché, je l'ai retrouvé, c'est le type qui a fait ce portrait d'un acteur de théâtre nu qui a une longue gueule, qui fait vraiment méchant avec les deux mains comme ça. Ça vous dira quelque chose si vous tombez dessus, c'est obligé. Et c'est vrai qu'on retrouve justement, il a vraiment su intégrer tout ce passé, tout ce cadre d'une époque. Les références pop qu'on avait dans Amer Béton sur le tag, le graphisme, le côté spectaculous, là, est complètement changé et c'est un bonheur, vraiment. Le Samouraï Bambou, le premier tome donc de Taiyo Matsumoto et de Issei Eifuku, est sorti dans la collection Made in chez Kana et ça déchire tout. Du sport vient d'arriver, donc là on va couper les micros un petit instant le temps que tout le monde se mette en place. Descends les micros. Le quatrième tome Duel de Belle vient d'arriver dans la collection générale de chez Dupuis et c'est toujours Marc Delaf et Maryse Dubuc qui le sortent. Punaise. Je ne sais pas, ils nous l'ont pas dit hein, s'ils avaient des enfants, mais alors quand ils auront des ados, ça va être quelque chose. Parce que quand on a rencontré les auteurs, on a littéralement hurlé de rire avec eux. Ils ont un humour québécois assez rafraîchissant et leur vision des adolescents est sauvagement mordante. Allez, prenez Vicky et Jenny, deux amies qui s'échangent potins, bon plan esthétique, célébrité lycéenne et leur unique neurone. Elles sont égocentriques, jalouses, intrigantes et surtout incroyablement connes. Oui, non mais je le dirai directement, elles sont connes. Or, si elles avaient besoin de plus de reconnaissance, comme si elles avaient besoin de plus de reconnaissance, leur nombril Pierre C, forcément, ont décidé de concert de tourmenter une pauvre fille, Karine, filiforme, peu populaire, sensible. Les nombrils, c'est une crise de fou rire, de hurlements sarcastiques à chaque nouvel album que nous attendons à chaque fois avec une gourmandise malsaine, c'est ignoble. Pensez donc. Mais alors que Vicky et Jenny sont toutes les deux troubles... le fonctionnement de leurs neurones est complètement perturbé depuis le départ précipité de leur amoureux commun, John. Karine, elle, est complètement déprimée depuis que Dan, le seul garçon qui a su lui montrer de l'attention, est parti en Afrique sur l'invitation de la belle Mélanie. Oui, Mélanie, la fille qui est toujours à l'avant-garde des combats pour le développement durable, l'écologie et l'humanitaire. Elle a proposé à Dan de partir avec elle pour un voyage d'études en Afrique aux côtés d'une ONG. Karine n'a pu évidemment lutter contre Mélanie. Croyez-vous vraiment connaître Mélanie ? Elle se trouve être totalement manipulatrice. Son engagement écologiste tiers-mondiste tient plus des deux tiers-mondains. Un cynisme à toute épreuve, les posters de Manu Chao, de Che Guevara, de Radiohead et le livre No Logo de Naomi Klein sont juste là pour donner le change. Parce qu'après tout, c'est hype, hein. J'en ai rien à foutre. Et croyez-moi, Mélanie est capable d'aller bien loin pour arriver à ses buts, plus loin qu'en Afrique. Alors si la pauvre Karine veut récupérer Dan, le seul garçon qui a bien voulu d'elle, elle va devoir montrer l'ignoble fourberie de Scapin Mélanie. Et étonnamment, l'alliance avec Vicky et Jenny est même envisageable.
Oh.
Ça va aller loin. Seul problème est de blonde, je sais pas le faire avec leur accent. Les deux blondes, ont moins de neurones dans leur tête que de paires de chaussures dans leur penderie. C'est pas ce qu'on a trouvé de mieux pour monter un complot, je vous dirais. Cette série est un bonheur sans fin. La cruauté, la méchanceté déborde de chaque page. Et l'immense douleur, parfois non fin des victimes, fait que nous muscler les zygomatiques, j'ai du mal à les ranger. C'est horrible, mais c'est trop bon. Les nombrils, le tome 4, Duel de Belle, chez Dupuis, de Marc Delaf, Maryse Dubuc. Je vous invite à réécouter l'interview qu'on a fait des auteurs. Putain, qu'est-ce qu'on s'était poilé. C'était ignoble.
Oui, surtout quand ils expliquent que d'où est venue l'idée d'appeler le chat accessoire.
Bon, c'était le chien.
Le chien ou un petit animal de compagnie qu'elle avait appelé accessoire.
Enfin, elle s'en foutait, quoi.
Le premier est écrasé, donc elle en prend un autre qui s'appelle accessoire 2.
C'est infect, un point. On n'imagine pas. Tête de vainqueur, va, espèce de jantote. Kazuo Kamimura, est-ce que ce nom te dit quelque chose, Thomas ? T'as triché, t'as le...
Oui.
T'as le conducteur sous les yeux.
Oui, j'ai les BD sous les yeux.
Oui, mais...
J'aurais reconnu le style si tu m'avais pas dit qu'il avait fait le Fluff Chiano et Lady Snowblood.
Snowblood. Et c'est vrai que c'est un auteur... l'on connaît assez peu en France qui pourtant a eu un apport mais enfin vous pouvez pas imaginer justement ce qu'il a amené graphiquement à l'époque. Faut dire qu'au Japon dans les années 60 quand il commence, c'était le ton je veux dire que Tezuka avait réussi à imposer son style et un peu tout le monde l'avait repris, même s'il y a eu des dessins un petit peu plus adultes. Ça, on en avait parlé avec le bouquin là avec les 9 robots, j'ai oublié.
Ah oui, machin avec 99 ou
ouais.
Oui, de Tezuka, ouais.
Non, c'était
non, c'est pas
Tezuka.
Tezuka, c'était dans le style de Tezuka.
Mais justement, il y avait une évolution par rapport à Tezuka. Enfin, on le pense immédiatement, quoi. On retrouve immédiatement son style.
Dus, on cherche le nom d'une BD que tu as lue dans un style à la Tezuka avec les 9 robots. Avec un style un peu enfantin, qui finit par un numéro 99 ou 9 ou.
C'est là où je suis content d'avoir un PC qui pour une fois ne plante pas en studio.
Ça te dit quelque chose à toi aussi.
Ça dit quelque chose, hein, oui, oui, mais...
Ah là là,
la mémoire j'ai la mémoire qui flanche.
Bon, c'est pas grave, on le retrouvera tout à l'heure pendant que tu fais ta chronique.
Bah ouais, parce que voilà, parce que ça va faire un peu long. Kazuo Kamimura, Lorsque nous vivons ensemble, 2 tomes sont arrivés chez Kana, à 1 mois d'intervalle, mais voilà, faute de, pour cause de calendrier, j'ai dû regrouper les 2 chroniques, et c'est 2 tomes costauds, 700 pages chacun. Voilà, c'est dans la collection Sensei chez Kana, qui est une collection qui s'occupe plus, je vais dire, des grands maîtres de la bande dessinée adulte, au sens de propos adultes, au Japon, et c'est vraiment à ne pas louper. On suit en fait Jiro et Kyoko, qui ont tous les 2 20 ans, et à peine plus. Ils vivent tous les 2 dans un modeste studio de 8 tatamis, et à peine plus. Leurs meubles se limitent à un bureau, un futon, une guitare, et à peine plus. Leurs revenus sont le salaire de Kyoko en tant que coach à lady dans une petite agence de publicité, et quelques travaux d'illustrateur freelance de Shiro. Et à peine moins. Leurs économies tiennent difficilement dans un billet de banque. Bref, dans ce Japon qui a su redresser la tête après la Seconde Guerre mondiale, qui a su profiter à fond du boom économique des années 60, Jiro et Kyoko sont 2 jeunes adultes qui tentent de se faire une place et dont les difficultés économiques sont compensées par leur amour. On est au début des années 70, on est en 72, hein, et le poids des traditions, de la cellule familiale est très très fort. Un couple de jeunes qui vivent sous le même toit sans être mariés, ça n'est pas possible, ça n'est pas normal, ça n'est pas sain. Et cette ambiance a pesé lourd sur le couple. Kyoko va très vite montrer des pensées morbides, suicidaires, car elle est partagée entre son amour pour Jiro et la pression que lui met sa famille pour le quitter immédiatement. Peu importe si elle a un emploi stable dans une agence de publicité, ça... la jeunesse n'a pas le droit d'être affranchie comme ça, et chaque génération doit perpétuer rigidement les traditions. Jiro et Kyoko s'aiment. Ils se déchirent, ils se trompent, se détestent, mais restent amoureux l'un de l'autre. C'est une chronique d'une jeunesse condamnée à rentrer dans le moule au moment où de la libéralisation des mœurs en Occident. Un véritable témoignage sur le Japon qui concilie difficilement tradition, occidentalisme, libéralisme. Et le voisinage n'est pas une contradiction près, loin de là. Des vicieux qui pelotent en douce dans les transports en public, des coucheries consanguines, voire incestueuses. Le patron de Kyoko, qui la présente à sa mère mourante comme étant sa future femme. Jiro fait la connaissance d'un gamin, mais ignore que celui-ci a fermement prévu de se suicider. La situation des couples est mise à l'index par une société qui est en profond mal-être. La lecture est édifiante, glaçante, laisse plus d'une fois un frisson dans le dos. Chaque tome est un vrai pavé, 700 pages. Chaque planche transpire la virtuosité de l'artiste, mais aussi les tourments personnels. Montrer des silhouettes derrière un fleuve illuminé par le soleil couchant, tracer un feuillage en quelques coups de pinceau, dessiner un champ de fleurs par une nuit de pleine lune, le nombre d'effets graphiques est proprement effarant. C'est un catalogue. Et pourtant... Lorsque nous vivons ensemble n'était que le début de la carrière de Kazuo Kamimura. L'année suivante, il sortira Le Fleuve Shinano, puis Lady Snowblood, adapté en 73 au cinéma, film qui inspirera Kill Bill, un certain Tarantino. Chaque album fait 700 pages, car chaque tome est une véritable bible de l'art séquentiel. Quelle immense perte que son auteur soit mort prématurément, à 46 ans, alors qu'il était au sommet de sa carrière. Et Kana fait ici un travail d'édition, de découverte d'un classique pour le public français. Un public français qui dévore maintenant une manga qui est plutôt adulte, qui est plutôt mûre, avec des effets graphiques monstrueux, mais qui ne sait pas d'où il vient. Et à noter une introduction de Jiro Taniguchi, qui a été assistant de Kazuo Kamimura. Et là, forcément, on se dit, ah ouais, il a été assistant chez lui pendant 6 mois. Et ben, on comprend mieux certains des aspects graphiques. Kazuo Kamimura est à découvrir pour son dynamisme, son style. Et les scénarios... enfin, on le sait avec Lady Snowblood et avec Le Fleuve Shinano, hein, c'est très noir. Mais alors graphiquement, qu'est-ce que c'est à tomber?
Il n'y a pas trop de filiation entre Kamimura et Taniguchi, finalement.
Non, pas du tout. Mais il dit que... quand Kamimura est allé le voir pour une de ses premières œuvres qui n'a pas été éditée en France... et lui a dit c'est du très bon boulot, ça l'a touché, ça l'a incroyablement touché, parce qu'en général les mangaka quand ils ont des assistants ils les traitent, ils rudoient parce qu'eux-mêmes sont rudoyés. Et là il disait mais j'ai vraiment eu de la chance parce que comme assistant j'avais 2-3 jours par semaine et pas de nuit blanche.
Ah.
Et quand on voit qu'il arrive à donner un feuillage en 3 coups de pinceau ou une silhouette en comme il dessinerait comme il écrirait finalement un kanji, ah, c'est 700 pages de lecture bluffante. Et moment tombe. Kazuo Kamimura, Lorsque nous vivons ensemble, tome 1 et 2, c'est dans la collection Sensei chez Kana. On fait un break peut-être ou...
Si tu veux, on fait le break après la BD comme tu veux.
D'accord, toi t'as prévu quoi dans l'immédiat?
Moi j'ai du comics de super-héros, j'ai du de la... d'une série BD qui passe à la couleur et d'une vie de merde.
Alors, dans ce cas-là... Ok, c'est ce CD qu'il faut que je mette. Voilà, il faut encore que je change. Excusez-nous.
Allez, change de CD.
Mais le numérique c'est génial, mais je préfère les CD. Ça plante moins. Je dis pas ça parce que Seven vient de sortir, Windows 7, le travail de Microsoft est plutôt bon. C'est un libriste pur et dur qui le dit, mais ils essaient de rattraper leur retard. Voilà, mais c'est plutôt mention honorable, je veux dire.
Oui, ça n'a rien à voir ici, mais sinon c'est bien. Alors
dit Thomas qui tombe sur Mac lui aussi et qui rigole bien.
Qui tombe sur Mac, mais oui, mais bon, fais pas une émission sur l'ordinateur.
Ouais, enfin, quand on a un ordinateur, on veut qu'il fonctionne.
Oui, tout à fait. Alors,
Me le montres, mais tu sais que nos auditeurs n'ont pas la couleur.
Non, mais c'est pour moi, en fait, que je montre, donc je montre aussi à mes amis. Alors, nous avons Ultimates tome 2, enfin, puisque le 1, il est sorti il y a 2-3 ans déjà, scénarisé par Mark Millar et dessiné par Brian Hitch. Et ça s'appelle Secret d'État chez dans la collection Marvel Deluxe chez Panini. Et donc dans le tome 1, c'était un petit peu un reboot plus moderne en fait des Ultimates, des Vengeurs, avec donc Iron Man, Captain America, Giant Man, la Guêpe, Thor, Hulk. Et c'est vrai que dans le 1, on avait vu un peu. Bon, c'est vrai qu'on a. Les gens qui connaissent pas trop, ils ont un peu une image des Vengeurs. Bon, c'est les Captain America qui est un peu relique du passé. Thor, c'est juste un gars avec un marteau, il qui s'énerve. Mais en fait, là, tu vois que.
Et qui se prend pour un dieu.
Oui. Et là, tu vois, il y avait une invasion d'extraterrestres dans le 1. Tu dis, bon, ok, les vaisseaux mères et tout. Et là, tu vois que, bon, ils envoient Thor qui leur pète tous la gueule. Ah ouais, d'accord, faut pas le faire chier. Mais c'est un peu nombreux, les aliens. Alors finalement, ils sortent l'arme ultime, puisque un peu auparavant, dans certaines pages, Hulk.
Laisse-moi deviner, Larry King.
Non, Bruce Banner s'était énervé et il avait, malgré lui, tué 800 personnes. C'est un peu... Voilà, on sort un peu du comics, c'est un peu...
Et il n'est pas branché, ton micro. Ah, putain, tu as inversé.
Ah, on appelle ça dommage collatéral.
Ah oui, voilà, ça c'est plus que collatéral, c'est du dommage frontal, là. Et donc Hulk, en fait, il le balance contre les aliens à la fin pour dire, bah, allez, pète-leur la gueule. Et bon, il est difficile à contrôler. Donc il y a l'un des dirigeants d'opération, je crois que c'est même Nick Fury lui-même, il lui dit, t'as vu le gros con là-bas de nazi? Parce qu'en fait, les aliens, c'est des anciens nazis.
Il t'a traité de tapette.
Et là, il y a Banner, il fonce dessus, il dit, non, Hulk n'est pas une tapette, Hulk est quelqu'un de normal. Oui, voilà, et alors...
On sent bien l'homophobie.
Et dans ce tome 1, il y avait Giant Man qui commençait à violer sa copine qui était la Guêpe, donc il se prenait une tôle par Captain America qui était volé au secours de la Guêpe, du coup il sort avec la Guêpe, Giant Man il est un peu devenu un paria, tout le monde qui lui est tombé dessus, Thor il est pas trop d'accord avec l'orientation politique d'Iron Man, donc il est vachement plus écolo, militant, vraiment intermondialiste et tout. Et dans le 2, en fait il y a une taupe... au sein des Vengeurs, on sait pas encore qui a révélé
c'est l'un top
qui a révélé que en fait le massacre des 800 personnes c'était Hulk, et Hulk c'est en fait c'est Bruce Banner. Donc tout le monde sait que c'est Bruce Banner, et donc du coup la justice va devoir demander des comptes, et Bruce Banner va avoir un simili procès où il va être défendu par
Matt Murdock.
Ben voilà.
Obligé. Et l'avocat des stars.
Et bon, Bruce Banner, il est condamné à chaise électrique. Et donc.
Oula, ça va l'énerver.
Et donc
ça.
Il est exécuté par donc Nick Fury, qui est pas le dernier à dire ouais bon, faut donner des proies aux médias pour qu'ils nous lâchent la grappe, pour qu'on puisse faire nos espèces de manipulations en secret. Pour,
il a bien appris lui à côté d'Iron Man, Nick Fury.
Pour le clone du super soldat. Et
ouais
tout.
Bon, c'est pas qui devance l'autre hein, généralement.
Oui,
hein.
Voilà.
C'est ça le truc, hein. Nick Fury, Iron Man justement, quoi. C'est tendancieux, ouais. On sait pas. Hein.
Et c'est vrai que dans ce 2, c'est assez sombre aussi, puisque Thor, il est un peu la cible aussi, parce qu'il y a une espèce de top dedans, tu sais pas trop qui manipule, qui c'est qui est manipulateur, si c'est une entité, si c'est quelqu'un vraiment de parmi les Vengeurs qui a retourné sa veste, on sait pas trop. Et au départ, à Thor, il rencontre un gars...
à Thor et à travers.
Il rencontre un de ses amis de Asgard, qui lui dit, attention, il y a Loki, s'est échappé. Alors Thor, il dit,
oh
non,
les boules.
Je vais encore lui péter la gueule comme d'habitude. Ah mais non, là cette fois il est vachement vénère, il est plus insidieux là, ouais c'est bon. Et en fait Thor il pète un câble parce qu'il pense que c'est Loki qui est derrière tout ça. Et on apprend dans ce tome aussi que Thor en fait il se prend vraiment pour un dieu, et c'est pas du tout un dieu, et c'est juste un gars qui a hérité d'une arme secrète. Avec un marteau supersonique, mais ça n'a rien à voir avec Asgard. Et alors là, tu te dis, il y a certains.
Ouh, ça casse du truc là.
Ça casse du truc, t'as des mythes qui tombent, t'as Captain America qui essaie de.
Je voudrais faire un break, mais je crois me souvenir du sport, si je me trompe, que la première apparition de Thor c'était vraiment un dieu, et ensuite, quand ils ont fait un reboot, c'était un homme normal qui découvre un artefact.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Bah là, dans cette série, c'est pas du tout un artefact, c'est juste des armes élaborées en secret par des laboratoires. Voilà.
Non, mais il faut préciser aussi que dans l'univers Ultimate, il n'y a pas de cahier des charges imposé, c'est-à-dire que les scénaristes, les dessinateurs...
Ah, je croyais que tu parlais des armes.
Les scénaristes sont libres d'utiliser, enfin pratiquement libres d'utiliser les super-héros hein, de l'univers classique, du Marvelverse classique, mais de la manière dont qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de respecter les codes et la généalogie marvelienne hein, par rapport aux différents groupes de super-héros, par rapport au background des différents super-héros. Hein. Ils peuvent vraiment utiliser les super-héros et leur faire avoir une histoire vraiment qui est complètement décalée par rapport à l'univers Marvel classique.
Voilà, et donc t'as plein de blagues savoureuses, genre... Captain America qui veut aller voir un film, alors il faut pas qu'il y ait de scènes trop dénudées, il faut pas que ça jure comme Chartier, parce que lui il vient des années 50, hein, enfin des années 40, donc il est choqué par tout et n'importe quoi. Donc sa copine elle lui dit ouais, on peut jamais rien voir avec toi. Alors au début il y a une discrétion sur les films de Richard Gere et tout, parce que c'est les seuls films qu'il peut aller voir. c'est assez rigolo. Hein. Donc voilà, ça tord un peu, et alors par contre.
À travers.
Voilà encore. Et alors par contre, juste le côté négatif, c'est qu'à la fin ils ont pour meubler, parce que en fait c'est un bouquin qui est beaucoup plus léger que le premier, parce qu'ils l'ont divisé en deux, hein, le tome 2. Et en fait pour meubler, pour faire un album entier, ils ont mis des BD en plus avec un style graphique totalement qui va dans l'autre sens, qui est pas du tout la même charte graphique, des aventures qui sont complètement qui ont rien à voir avec l'histoire. Tu te dis bon, qu'est-ce que ça vous vient foutre ici? Voilà, donc sinon c'est quand même très très bon.
C'est ce qu'on appelle des fill-in.
Ouais, voilà. Mais tu vois le dessin de Brian Hitch, bon voilà, c'est.
Ouais, ouais, ouais.
Et
ouais.
À la fin, t'as ça. Ouf.
Ouais, en fait, c'est comme quand tu regardes un journal télévisé que tout d'un coup tu as. Et maintenant, nous allons parler du nouveau film de. Mais qu'est-ce que ça fout dans
voilà.
Ce JT ?
C'est exactement ça. Donc,
Et après, t'as l'invité qui se barre parce que le journaliste l'a pas vu, parce qu'il n'a rien à foutre de son film.
Donc Ultimates 2, scénarisé par Mark Millar et dessiné par Brian Hitch, Secret d'État, où là t'as Nick Fury, mais c'est une saloperie. Et alors c'est justement ce Nick Fury noir qui a inspiré donc le Nick Fury d'Iron Man qui est joué par Samuel Jackson. Voilà,
ah
donc c'est,
yes.
Et voilà, c'est édité chez Panini dans la collection Marvel Deluxe. C'est un beau pavé dans les 20 euros je crois. Et là, voilà, franchement, ça donne pas mal de promesses pour le tome 3.
Non, mais ça permet également quoi, aux gens qui sont pas familiers de l'univers Marvel, les super-héros et tout ça, et qui n'ont pas envie de se taper toute la série ou de remonter aux origines pour bien comprendre les histoires et les enjeux entre les différents super-héros, bah, ça leur permet d'appréhender justement ces super-héros, mais de manière complètement libre. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans l'univers Ultimate sans connaître vraiment les super-héros. Et c'est ça l'avantage, justement. Et c'est aussi une des forces qui a permis à Marvel, à un moment, quoi, bah, justement, de revenir en force avec ses super-héros et de noyer le monde grâce à ses éditions Ultimate. Quoi.
Alors Duce, tu m'as prévu quelque chose tout à l'heure, tranquille?
Ouais, si tu le dis.
Non, parce que je t'ai eu tout à l'heure à 11h, t'avais l'air catastrophé et tout. Ah ouais, t'es en train d'ouvrir les bouquins, voilà, que tu vas chroniquer.
Non, c'est juste pour dire que quand vous achetez l'équipe du samedi, comme d'habitude, il y a l'équipe...
Oui, je sais, si t'es abonné à l'équipe cette semaine, tu reçois la tribune en même temps.
Non, non, mais je suis pas abonné.
Bah si, moi je suis abonné à la tribune, j'ai reçu l'équipe, ça me fait chier.
Mais par contre, à partir de cette semaine, pour... un petit peu de monnaie en plus, hein, bien sûr, bah, c'est pas gratuit quand même. Eh bien, on vous propose les volumes des Michel Vaillant
Junior,
l'édition pratiquement complète dessinée par Jean Graton. Et cette semaine,
qui est toujours au dessin.
Et c'est chaque semaine à partir d'aujourd'hui.
Chaque semaine à partir d'aujourd'hui. Donc cette semaine, ça commence pas cher, hein, 2 €, quoi, 1,99. Donc voilà, hein, c'est tout.
C'est quoi, c'est édition Atlas ou...
c'est le même principe, hein, de toute façon, quoi, hein, donc
il en fait aussi au Figaro pour Tintin et,
ouais, mais bon, voilà. Maintenant je veux dire, même pour les trucs Marvel, c'est pareil, hein, je veux dire, tu sais, quand ils sortent les collections de super-héros, c'est pareil, le premier il est pas cher, mais ensuite tu payes plus ou moins le prix fort. Alors bon, ça vaut le coup, hein, si vous n'avez jamais lu un Michel Vaillant et tout, attaquez, prenez celui-là, parce que bon, celui-là c'est quand même un des premiers, si ce n'est le premier, hein, j'ai pas eu le temps de regarder, hein, et on se rend compte que
je te laisse le temps de regarder, je pense que
1959, le grand défi, donc
puisque c'était dans Pilote,
vous pouvez, si vous êtes déjà un petit peu familier de Michel Vaillant et tout, mais que vous n'avez pas grandi forcément avec, c'est toujours intéressant de savoir ce que c'était à l'origine et de voir aussi, parce que
c'est fou, il est en train de préparer, de meubler et tout, je suis sûr que les 2 heures il va les faire, tu vois.
Non, mais
alors qu'à côté, tu prends JB, lui, JB il arrive, maman et poche.
Il est là pour taxer les bouquins et pour pouvoir
bouquiner. Ouais, je lis Télérama, ouais, je lis les Inrock, mais non, j'ai pas fait de chronique, pourquoi faire et tout, et puis tranquille. Et...
Petit détail, je ne lis pas les
Inrock. Ah, t'es là ! Oh, salut !
Alors,
ça super faisait la blague.
Je termine.
Tiens, pour une fois, t'es là quand on est là.
Oui, effectivement, je regarde qu'à moitié tes mails.
Bon, je peux terminer là sur Michel Vaillant, vite fait.
Ouais.
Ce qui est quand même vachement... Ce qui est vachement intéressant quand même dans Michel Vaillant, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au domaine de l'automobile, au domaine de la course automobile, c'est de voir qu'au fur et à mesure des volumes, eh bien, on a également l'évolution des voitures parce que Graton, de ce côté-là, était vraiment Graton, super documenté.
Graton, allé je crois sur qu'il a été assistant. Je crois qu'il était assistant d'ailleurs sur une autre série au bout d'un moment, justement sur tout ce qui était mécanique. Et c'est un gros. Il était invité par les écuries, par les fabricants de voitures et tout.
Oui,
pour
il allait
voir
sur
les carrosseries avant tout le monde
il allait
pour
que
ça soit intégré.
Il allait sur les courses également pour prendre l'ambiance et tout le truc, pour faire des petits crobards pour alimenter justement ces histoires de Michel Vaillant. Et c'est pour ça que c'est vachement intéressant.
Ça fera plaisir à Jean Toth.
Et là, bon, bah ok, on a quand même quelques petits exemples et tout. Je veux dire, pour ceux qui aiment bien les balioles de course et des trucs comme ça et tout, c'est vraiment très très intéressant. Hein. Ça donne vraiment un historique, le développement des voitures de course à partir pratiquement du début de ce qu'a été la Formule 1, des Grands Prix de Formule 1, quoi, qui ont commencé justement à la fin des années 50.
Et cette première BD là, c'est le tome 1 où ils font dans tous les sens, comme dans les diffusions de.
Écoute, j'ai pas vérifié là, vraiment, je suis un petit peu à la bourre et tout, mais bon, 59, ben, je crois que c'est un des premiers, hein, si ce n'est le premier, quoi. Mais là, vraiment, c'est plutôt une aventure qui est basée sur les 24 heures du Mans, quoi. Hein, parce que à l'époque, la Formule 1 n'avait pas ce retentissement, quoi, n'avait pas Stora. La Formule 1, c'était une épreuve de plus. Par contre, l'épreuve reine, quand même, c'était les 24 heures du Mans, hein, et les courses d'endurance, quoi.
Il fait son apparition en 57 dans Tintin. Dans une histoire courte.
De façon,
et le premier bouquin, c'est Le Grand Défi.
Bah, tu vois, voilà, c'est le premier. Donc,
hein. Alors, merci, Wiki.
De toute façon, il n'y a pas de secret entre les deux grandes stars qui ont fait un film sur la course automobile. Il y a Le Mans avec Steve McQueen et.
Le film de Frankenheimer.
C'est Frankenheimer qui a fait ça. Ouais. Et donc Driven de Rennie Harlin avec Stallone, je crois qu'il y en a un qui réussit, l'autre qui est raté. Ça démontre la supériorité des 24 heures du Mans sur la F1 quand même. Stallone qui fait 90 kilos, qui entre dans un baquet de Formule 1, c'est crédible.
Mais c'est peut-être aussi dû au fait que scénaristiquement, c'est un petit peu plus difficile de concentrer une histoire durant le temps d'une course de Formule 1 qui fait une heure et demie par rapport aux 24 heures d'une course d'endurance.
Oui, c'est vrai que c'est moins palpitant parce que ça. En plus, t'avais plusieurs courses pour la Formule 1.
Non, le problème c'est qu'on se rend pas compte parce qu'entre temps, Michael Schumacher il a spoilé toutes les saisons.
Oui. Ah, t'as des dialogues assez gros dans Driven où t'as à un moment donné c'est l'introduction du Grand Prix d'Allemagne et il y a la voix off qui dit eh bienvenue au Grand Prix d'Allemagne, le pays de la vitesse et de la bière.
Conduisez bourré, ben voyons.
Alors bon, sinon on va passer de la voiture à la moto. Mais quel enchaînement. Pour Lord décédé, je pense qu'on avait programmé l'autre, celui-là d'abord, enfin comme tu veux.
Non, tu peux y aller, ouais, y a
bon,
pas
d'accord.
De soucis.
Bon, on va entamer avec la moto alors, avec le dernier Little Kevin, tome 8, par Coyote. Et donc, Little Kevin se met à la couleur désormais. Alors toujours, moi je connaissais pas les précédents albums.
Tu connaissais pas les Fluides Glaciales?
Ben non, c'était pas ma cam en fait, si tu veux.
Toi, à la fac, au coin café, il y avait pas une pile de Fluides Glaciales à côté des Playboy.
Et je te rappelle qu'on n'est pas la même génération. Moi, les années fac, c'était les mangas, moi. Désolé, hein.
Tu sais, ça s'est aseptisé avec
là,
amis.
Dans la gueule.
Ça s'est aseptisé.
Ah ouais, parce qu'à mon époque, dans le local café, il y avait quand même des sacrées scènes de baise.
Dans le manga aussi.
Imagine le temps de du sport.
C'était les gravures. Ouais.
Contre les murs.
Là, voilà.
Gravé dans les murs.
Alors bref, bon, donc il est passé à la couleur. C'est vrai que Little Kevin, graphiquement, dans les planches, c'était du noir et blanc, mais c'était du noir et blanc extrêmement précis. Il s'amusait à faire des chromes, des effets de matière qui étaient délirants. Et d'ailleurs, t'avais les reflets des cheveux et trucs comme ça. Mais surtout, t'avais énormément de détails derrière. Fois, c'était affolant.
C'était très hachuré. T'avais beaucoup de détails. Oui, c'était pas.
C'est-à-dire un mur avec Coyote était jamais propre.
Alors c'est un truc qui m'a toujours fasciné chez Xavier, il dit Coyote.
Coyote.
Ouais.
Mais c'est son côté franche-comtois. Il vient quand Coyote?
Je sais pas, j'ai des gros problèmes de prononciation, mais.
Donc voilà, moi je suis assez mal placé pour parler de ce tome puisque moi j'ai que le 8, alors les précédents.
Alors vas-y, fais ta chronique.
Bah voilà, c'est ça ma chronique.
Bon, mais le petit Kevin il a grandi maintenant, il est quasiment majeur.
Bah non, il est tout petit. Il est toujours tout petit. Par contre, moi je connaissais pas. Alors, ce qui frappe dans le 8, de l'œil du novice, hein, c'est que. En fait, c'est jeu de mots. T'as une tonne de jeux de mots concentrés à la bulle. T'as tous les
ah toujours
les, t'as tous les titres des petites histoires qui sont tu dis ah ouais d'accord c'était ça le jeu de mots le dernier par exemple c'est lesbien raisonnable t'as mot d'impasse enfin voilà
ça a toujours été ça et en général le boulot c'est soit ils vont boire une bière soit ils assurent le service d'ordre à un concert. Et une fois, il y a le père de Little Kevin qui lui emprunte ses talkie-walkie de gamin. Et alors, c'était les albums étaient en noir et blanc. Et il disait, je crois qu'il dit, le jeune fluo va pas jurer dans le. Non, non, mais c'est juste pour le décor.
D'accord. Bah là, en fait, ils sont tous dans un chalet à la montagne et donc il y a avec la belle famille, avec les parents de la nana de Chacal, donc le père de Little Kevin. Et à un moment donné, donc c'est une grosse bataille de saucissons.
Enfin, la mère de Little Kevin, tu peux le dire.
Et c'est une grosse bataille de saucissons. Et à un moment donné, ils jouent au flipper avec la mamie. Donc ils font tilter mamie. Ils vont tilter le chalet avec la mamie. Donc au départ, ils parient sur si elle va gerber de face ou sur le dos. Voilà, donc c'est des pillages comme ça. Alors par contre, ce qui m'a frappé, c'est que 90% des histoires là-dedans, c'est super comique. Et à la fin, t'as une histoire qui plombe. C'est vachement plus grave. Et ça s'unit comme ça. C'est ah, d'accord, bon, changement de ton sur la dernière histoire.
C'est hallucinant parce que quand même le coloriste a réussi à donner vraiment une matière à un truc comme ça et la scène la Gay Pride c'est enfin quand on voit le nombre de détails et tout pouf.
Oui, donc il faut savoir que l'album a été édité en noir et blanc et en couleur, le même prix, puisque d'habitude, quand il y a une histoire en noir et blanc, il y a des crayonnés en plus, donc le prix est plus cher. Mais là, c'est vrai que c'est le même album, avec soit en noir et blanc, soit les couleurs pour les puristes ou ceux qui veulent avoir la couleur.
Ou ceux qui ont envie de colorer chez eux.
Ouais. C'est, voilà. D'ailleurs, c'est qui le graphiste ?
Et les petits feutres.
C'est qui le graphiste ? C'est quoi cette dédicace ? Ouais, c'est vrai qu'il était allé. Michael Olivier. Mika, du Dromadaire.
Ah ouais tiens j'avais pas fait le rapprochement.
Oh tiens donc.
Donc voilà c'était la.
Bon je dis rien.
C'était le début de la séance copinage. Sinon on finit la séance copinage avec le vie de merde.
Comment ça il y en a une autre derrière.
Bah oui il y a quelqu'un qu'on a reçu plusieurs fois qui participe à cet album collectif qui est Nils.
Ah ouais, c'est mon fils.
C'est vrai.
Ah bah il est vraiment précoce.
C'est
hein.
Vrai.
De toute façon, on va vous la faire à toutes les seules, ça.
Écoute, vie de merde illustrée, donc c'est édité chez Privé, ça leur est arrivé, nous l'avons dessiné. Donc,
Privé fait pas de la bande dessinée d'habitude, c'est ça qui est amusant.
Bah ouais. Et donc là, c'est inspiré du site hein, videmerde.com, où ce sont les internautes qui mettent, qui racontent en 2-3 phrases des anecdotes qui font qu'ils ont une vie de merde, un grand moment de honte dans leur vie ou des trucs comme ça. Et c'est illustré par des dessinateurs variés qui vont, on l'a dit. Attends, je remets. On a mis des bouquins par-dessus, forcément. Voilà, donc on a Lee Chen, on a Martin Wittberg, on a Monsieur Had, Paco, dont on avait chroniqué le Maé il n'y a pas longtemps, Pénop Jolicoeur, on a Vincent Co du blog de Vincent, qui a été primé par mes auteurs à suivre Angoulême l'année dernière, cette année. Donc il y a du beau monde quand même. Alors, le petit bémol, alors c'est vrai qu'il y a les styles sont quand même béton au niveau visuel, mais par contre, les anecdotes, franchement, il y a 90% à jeter, parce que il y en a 10% qui t'arrachent un sourire, ou même qui te font rire, mais la plupart, c'est affligeant quand même, faut le dire. L'intérêt c'est que ça va de l'illustration pleine page au petit strip en une page ou à plusieurs pages. On a plusieurs styles. Franchement moi les. Bah y a pas de secret mais franchement moi ce que j'ai le plus aimé c'est bah, des dessinateurs reconnus comme Pénélope qui a vraiment une narration bien à elle, Martin Wittberg avec ses petites patates aussi c'est très très rigolo. Sinon on va parler de celui qu'on connaît, Bonis, il s'est borné à prendre 4 styles différents, moi je trouve ça fonctionne. Après le bouquin en lui-même, je pense que il y a pas mal de déchets dedans, mais sinon ça vaut quand même le coup pour certaines anecdotes. Le truc aussi dommage, c'est que ils ont mis l'anecdote en écrit qui avait inspiré l'illustration, souvent qui va de pair avec l'illustration, donc ça fait un peu redondant. Surtout que le texte est aussi se retrouve aussi dans les bulles, donc je vois pas pourquoi ils ont fait ce choix-là, mais bon, voilà. Donc vie de merde, illustré.
Parce que les adaptations sont pas forcément littérales hein, aussi.
Bah ouais, mais certaines sont vraiment littérales. Et donc
oui. Ah ça y est, j'ai une souris parce que la souris du PC a planté.
Excusez Xavier, se bat avec son ordinateur.
Voilà, non parce que je suis sur le site donc videmerde.fr du c'est sorti. Pas. Et le problème de Vie de Merde, c'est que c'est des petites anecdotes et les trois quarts sont bidonnés. C'est pour ça qu'il y a deux votes en général sur le site. Il y en a un, je valide, c'est une vie de merde. Et l'autre, c'est, bah tu l'as bien mérité. Et c'est vrai qu'il y en a certaines, on se dit, bon oui, bon non, bon, etc. Alors,
après, c'est souvent la chute, c'est juste une pauvre vanne. Hein. D'autres fois, c'est un gag que tu donc tu ne finis pas avec ce gag-là tellement il est éculé. Par exemple, là, je parlais à off avec Xavier, c'est un couple, le papa et la maman sont blonds et la nana, elle accouche d'un bébé noir. Voilà. Oh, mais nous, on est blonds. Ça alors.
Voilà. Alors, on va en prendre 5. Je les ai pris au hasard. Et on va voter si c'est une vie de merde ou s'il l'a bien mérité.
D'accord.
Ok.
Alors, vie de merde, ça veut dire que ça fonctionne, c'est ça?
Oui. On dit, ben oui, t'as vraiment eu une vie de merde.
Ah oui.
Bien fait pour ta gueule. En fait, chaque anecdote se termine par VDM, vie de merde. Aujourd'hui, je propose un petit câlin à ma copine qui tchatchait sur MSN. Elle a accepté et passé son statut de en ligne à de retour dans une minute. Vie de merde ou tu l'as bien mérité?
Tu l'as bien mérité.
D'accord. On continue. Aujourd'hui, une collègue de l'agence de modèles où je bosse a un gros client en ligne. Nous sommes en Belgique. Elle est néerlandophone et maîtrise mal le français. Elle aimerait lui dire, je vous conseille Isa, elle a un joli minois. Mais elle lui a dit, je vous conseille Isa, elle a un joli minou.
Ah, vie de merde.
Aujourd'hui, la fille avec laquelle j'échange des regards depuis un bon moment a roulé une grosse pelle à son mec au moment où j'allais lui parler. La prochaine fois, je lui demanderai de me mettre une grosse claque. Le choc sera sûrement plus agréable.
Tu l'as bien mérité.
Ouais, tu l'as bien mérité, ouais. Il y en a qui disent je valide, c'est une vie de merde, hein. Il y a un vote majoritaire là-dessus. C'est voilà, c'est ce genre d'anecdote qu'il y a dans le bouquin. Nils n'est pas le seul copain qu'on connaît qui dessine dedans. Il y a plein d'illustrateurs qui sont plus ou moins connus. Il y a Boulet, je crois. Non, il n'y est pas dans celui-là.
Non, je l'aurais mis. Non.
Mais je sais plus qui c'est. Ah, mais c'était pas Maliki.
Non. Pénélope.
Un Pénélope.
Mais j'ai fait la listing tout à l'heure.
Oui, j'étais en train de me battre avec ce putain de PC sur Windows.
Pour Xavier, Martin Wittberg, Lichen, oui. Monsieur Had, Paco, Pénélope et Vincent Co. Voilà. Entre autres, hein, il y en a.
C'est un joli tome.
C'est assez épais, mais ça se lit très très vite en même pas une heure.
Oui, c'est des anecdotes. Et puis voilà.
Voilà, donc Vie de merde illustrée, édité chez Privé. Voilà.
Le supplément week-end numéro 212, 12h. 57 minutes et 16 secondes. On va faire un long break parce qu'on n'a pas arrêté de parler. Björk, hyper balade. Pour mettre un petit peu de joie quand même et tout. Radio FMR 89.1.
closed or open. I go through all this before.
Vous êtes présenté en Dolby Mono sur un partout. Non, le lion en fait là il baille.
Ah oui, aujourd'hui avec Jennifer's Body.
Ouais.
Voilà, on sent les cris de mal derrière.
Ouais, Megan Fox. Ouais.
Alors, c'est un film de Karin Kusama, donc à qui on doit Girl Fight et le assez raté Iron Flux. Avec Megan Fox, donc Amanda Seyfried et J.K. Simmons. Alors, yeah. Je vous dis de suite, J.K. Simmons avec la perruque bouclée, ça le fait absolument pas. Hein. tu vois ça, mais qu'est-ce qu'ils leur ont pris ? C'est quoi ? En plus, il le fait à la... Alors, J.K. Simmons, c'est Schillinger dans la série Oz, et aussi le patron...
C'est le patron du Bugle dans les Spider-Man.
Voilà.
Ok.
Et le patron du FBI dans Burn After Reading.
D'accord, ok.
Voilà. Et donc il y a J.K. Simmons. Alors qu'est-ce que je disais? Oui, pourquoi une perruque? Je sais pas. Tu le vois, tu dis mais qu'est-ce qu'il leur a pris comme idée? C'est pas possible. Alors je disais, il le fait à la Michael Ironside dans Starship Troopers. Il est estropié, il incarne un prof avec un crochet à la place de la main gauche.
Le crochet, ouais. Le crochet,
le croc de boucher, ouais. Alors par contre on est dans l'ultime movie gore. Alors, mais sinon là, c'est juste qu'il a un crochet, hein, c'est tout. Il s'en sert pas, c'est pas maniaque, c'est juste un prof, voilà. Alors, Needy, c'est une lycéenne binoclarde, blonde, et aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est la meilleure amie de la plus belle fille du lycée, la pom-pom girl Jennifer. Alors un soir, lors d'un mini-concert organisé dans l'unique bar de leur bled paumé dans le Midwest, un incendie se déclare et Jennifer est kidnappée par les membres du groupe musical. Et lorsqu'elle retrouve ensuite Needy, elle semble bizarre, elle a une sale mine, elle se met à vomir du goudron avec des pics. Bon. C'est bizarre quand même. Et en fait, elle est devenue une succube.
Ça doit faire mal en plus.
En fait, elle vomit du goudron.
À la limite, la purée de pois, ça doit être plus facile.
Alors, elle vomit du goudron, mais après, la flaque, ça devient des pics après. Donc, c'est bizarre. C'est un truc. Ouh, tu dis, il y a Anguille sous roche quand même. Alors déjà, la scénariste de Jennifer's Body, c'était la scénariste Diablo Cody de Juno.
Yes.
Alors, tu sens dans Juno, déjà, ce qui frappait aussi, c'est les dialogues supernaturels. Tu dis, bam, les dialogues et tout. Et là, c'est quand même le principal attrait du film Jennifer's Body aussi, c'est les dialogues pas piqués des vers. Dont t'as un certain, par exemple, je les ai notés.
Alors t'as des membres du groupe qui pensent que le personnage joué par Megan Fox est vierge. Alors l'héroïne elle va la voir et dit c'est vrai que t'es vierge. Alors Megan Fox elle répond non mais tu rigoles, même le verrou de derrière a sauté, j'ai tellement dérouillé que j'ai dû m'asseoir pendant une semaine sur des poids surgelés. Voilà.
Ou à un moment donné, c'est mignon.
Voilà, la grande scène de baston à la fin où il y a.
C'est Megan... Captain America, là, je crois qu'il fait une crise cardiaque.
Oui, voilà. Il y a Megan Fox à la fin, elle est empalée avec une perche de piscine, et puis donc elle pisse le sang et tout, et puis l'héroïne, elle est en face d'elle, et puis Megan Fox, elle lui dit ah merde, je pisse le sang, t'aurais pas un tampon non. Ah non, parce que vu ton humeur, je pensais que t'avais tes règles. Donc c'est, voilà, ça les...
Oh là là
oh, mais non, mais elle le dit comme ça, voilà. Mais c'est quand même, c'est super drôle. Et alors, le film, c'est à mi-chemin, en fait, entre le teen movie gore avec toutes les scènes, les clichés, c'est-à-dire la personne qui est attirée vers en bas par le prédateur et qui s'accroche avec les ongles sur le sol. Bon, ça, tu l'as vu 150 fois. T'as les pompons girls, t'as le bal de fin d'année, t'as... T'as le joueur de foot américain sur le terrain d'entraînement, t'as que des poncifs.
La scène de baise.
Forcément, il y en a plusieurs. Ah mais bon, attends.
En général, dans les teen movies, ça essaye et puis tu meurs.
Ah mais non, mais comme c'est un film d'horreur, il faut qu'il y ait une scène de baise.
Oui, mais oui. Tu meurs après.
Oui, c'est
parce
ça.
Que t'as baisé.
Oui, bien sûr. Depuis le Halloween de Carpenter, là, l'héroïne qui ne baise pas survit.
Oui. Tout à fait.
C'est pour ça qu'on a souvent taxé Carpenter de réactionnaire, c'est pour ça. Et alors là, par contre, oui, il y a la scène de baise, alors des séances de dépucelage. Bon, voilà, forcément, c'est une succube, hein, donc elle va en profiter pour bouffer les gars parce qu'il faut qu'elle se régénère et tout. Alors voilà, c'est un peu l'attrait, le défaut du film, en fait, c'est que le film, il est décalé. Donc c'est rigolo, mais pas suffisamment décalé pour vraiment faire la grosse farce où tout le monde prend son pied et tu dis ah, putain c'est politiquement incorrect, oh là là, j'ai entendu ça sur le net, enfin je l'ai lu, mais c'est pas vraiment politiquement incorrect pour taxer le film que de ça. Et en même temps c'est pas assez classique pour faire vraiment le film gore vraiment à fond. Alors c'est-à-dire c'est un entre-deux où c'est gentillé côté gore et c'est pas assez à fond sur le côté parodique, parce que c'est quand même une dimension parodique. T'as l'héroïne, c'est une grosse une binoclarde assez bien foutue, mais elle est fringuée comme un sac à patates pour faire de l'ombre à sa meilleure amie qui est la bimbo. Voilà, c'est pensif, t'as les couloirs du lycée avec les casiers, bon voilà, c'est là. Et après, t'as la dimension parodique, tu rigoles, mais quand tu sors du film, tu dis, ouais, bon, c'est sympa, mais bon. Après, alors voilà, le film était assez connu par la gente mâle sur le net, puisque, évidemment, c'était la bimbo de Transformers, Megan Fox. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur sa prestation? De toute façon le film ne lui demande pas de faire grand chose, elle a quand même un registre d'actrice encore assez limité puisqu'elle est assez jeune, elle se contente juste d'entrouvrir la bouche pour faire sensuel, elle a un joli minois. Par contre
conseille une débouchée là.
Ce qu'il y a de bien par contre, c'est que ça aurait pu tourner vers le côté un peu personnage énervant, c'est-à-dire je suis la bimbo, un peu vulgaire. En fait, ça va jamais dans le vulgos. Ça reste de toute façon, elle garde quand même un côté un peu midinette que tu prends en sympathie en fait. Ça, c'est jamais le personnage trop méchant. Même quand elle est méchante, tu dis ah c'est quand même la copine de l'héroïne. Et puis quand elle est repue, elle redevient la meilleure amie. T'as une scène de baiser lesbien aussi dedans. Ça a été assez analysé aussi sur le net puisqu'on la compare avec la scène.
Crime.
Hein ?
On la compare avec la scène avec James Richards dans Sex Crime.
Non, mais avec la
non,
scène
pas aussi
de Sex de pas de Sex Crime de Sex Intention avec The Star Michel Gellar et Selma Blair. Mais je me souviens plus qu'il y avait une scène de baiser lesbien dans.
Oui, je me souviens de ça parce qu'on avait vu le film avec les commentaires du réalisateur. Il disait que pour tourner la scène en question, les filles flippaient tellement qu'ils étaient obligés d'aller acheter de la vodka, de bourrer un petit peu tout le monde pour que tout le monde se libère et se lâche et on tourne.
D'accord.
Et, voilà. Et les gars, il me reste du GHB, on y va, ouais.
Et alors,
c'est pas bien, attention, ça, c'est pas bien. Bourrer les filles pour pas bien.
pas bien.
Alors Megan Fox s'en sort bien, mais finalement, là où est la surprise du film, c'est que l'héroïne, la blonde, elle lui vole presque la vedette sur certaines scènes, et elle est vraiment loin de démériter. Elle est à la fois assez forte pour pas faire la fille effarouchée qui se contente de courir. Elle a quand même suffisamment de caractère pour essayer de tenir la dragée haute à sa copine brune. Et finalement, le film, j'ai commencé en disant que c'était quand même un petit peu entre deux et un peu mollasson. Enfin, il y a quand même des qualités au niveau des personnages, au niveau de l'interprétation. C'est quand même un film de bonne facture, même si c'est pas renversant. Il y a quand même des petits détails qui sont quand même... sont quand même sympas. Bon, c'est tout frais, je l'ai vu hier soir. Faudra voir avec le recul comment s'il est oublié. Je pense qu'il y a quand même de grandes chances pour qu'il soit pas oublié, parce que Megan Fox, à mon avis, ça va être la bimbo des 10 prochaines années. Donc ce film va quand même lui être rappelé, puisqu'elle c'est quand même le film où elle a l'un des deux premiers rôles, parce que Transformers, on peut pas dire que... hein. Bon, voilà, on a tout dit.
Je ferai pas de commentaires.
Mais si, vas-y...
De toute façon, je comprends pas tellement l'intérêt pour Megan Fox, parce que effectivement j'ai vu le premier Transformers. Ouais, mais elle m'est parue totalement invisible. Le 2, je m'en pas osé de voir, ça m'a suffi quoi.
T'as paru invisible.
Tu peux parler dans le micro pour
ouais,
que
je
ça
parle
un
dans
petit
le
peu
micro.
Plus fort, oui.
Non, franchement, c'est toi qui m'as dit hey, t'as vu Megan Fox? Oui, qui c'est qui? Ah, c'est la fille. Ah, d'accord, ok, ouais. Franchement, elle m'a pas marqué quoi.
D'accord.
Alors que dans d'autres films, je vois. Je me souviens, j'ai vu récemment Millennium, la brune de Millennium. Putain, ça ne m'ira pas, elle le fait.
D'accord.
Bon.
Mais c'était le mâle en France qui a pas été... Je rigole. sensible au charme de la belle brune dans Transformers. Bon, bref, donc Jennifer's Body...
Je n'ai pas vu Transformers, donc est-ce que j'ai été insensible?
Tu rates rien du tout.
Oui, bon, oui on peut dire ça.
Ça bouge beaucoup, la caméra bouge tellement que tu vois plus rien... Tu dis ouais bravo là, c'est une licence Hasbro c'est ça
oui oui
ben voilà
bah bravo, tu vois un gars Blockbuster Man qui s'amuse avec ses jouets voilà. Bon bref oui, c'est pas chronique de Transformers.
Michael Bay Explosion.
Et donc voilà, donc Jennifer's Body, n'y allez pas pour du torride parce que ça restait quand même assez sage. C'est du sexy, y a un peu de gore, c'est quand même un teen movie, hein, faut pas se leurrer. Bon voilà, c'est ça aussi les qualités et les inconvénients du teen movie, c'est que ça pète pas très haut. Et par contre, je me suis surpris à imaginer ce que ça aurait pu donner ce scénario entre les mains d'un Dario Argento de la grande époque. Puisqu'il a été habitué à filmer des héroïnes qui étaient victimes de rituels, avec des sorcières, en plus il y a pas mal de sang là, donc tu vois, Dario Argento avec le rouge, tout ce qu'il aurait pu en faire. Je pense que ça aurait pu donner quelque chose de pas mal entre ses mains, mais bon, maintenant, sa grande époque, elle est derrière lui, donc bon. Alors voilà, c'était ce qu'on pouvait dire sur Jennifer's Body de Karin Kusama, avec Megan Fox, Amanda Seyfried et J.K. Simmons, qui est sorti cette semaine, donc si vous voulez aller le voir, vous avez le temps.
Éphémère. Ah, alors le problème c'est que illustration musicale supplantée sur le même CD. Voilà.
Parle dans le micro, Xavier.
Voilà. Merci. Boards of Canada, Roy Beef, extrait de l'album Music as a Right of Children. Je voudrais faire par là même une petite mémoire à GDZ qui nous a quitté il y a un an. Ciao GDZ. Et merci pour tout ce plaisir que tu nous as fait, même si toi tu étais sur campus. Leur pote.
Le gras, c'est la vie.
Non, c'est une musique d'Alexandre Astier. Et qui dit Alexandre Astier dit
Alain Delon,
mais, sacré gras.
Mais le gras, c'est la vie, c'est ce que je dis. C'est une réplique d'Ariel Kaamelott.
Oui, c'est vrai en plus. C'est vrai,
il
ça vient
jamais.
De là.
T'as vu ça, ce producteur, mais.
Et les trois premiers épisodes sont passés d'un coup sur M6. C'était un petit peu.
Ouais, ce soir, trois autres. Il n'y a pas de problème. Il y en a neuf qui sont prévus. Donc, ça va nous faire trois samedis.
Voilà. Donc, des gens qui étaient à la fête d'anniversaire de Madame du Sport et qui n'ont pas pensé à enregistrer la soirée.
Ah non, toi, t'as pensé. Moi, j'ai pas pensé.
Ouais, mais je l'ai encore dans le scope numérique. Donc, si tu le veux. Hein. Sinon, j'aurais pas le sonore. Faudra qu'on prévoie quelque chose. Nus.
Est-ce que c'est première question sur ces trois premiers épisodes que on n'a pas vu. Est-ce que si exact. Toi tu l'as vu. Ouais. Est-ce que c'est dans la veine dépressive de la fin du livre 5 ou non? Même
non.
Si ça se passe avant.
Ah, non.
C'est il fait son apprentissage à la dure et.
Ouais donc c'est plus comique. On revient au comique alors.
Parce bah là 5, non c'est des pas, intrigues c'est des intrigues de couloir, ça tient plus tu vois un peu du style à la Maison Blanche, à West Wing.
Oui mais c'est tu ris au moins ou non?
Tu ris parce que les dialogues ils s'envoient dans la gueule hein.
Oui donc c'est le retour aux sources là pour l'esprit.
Ouais mais ouais. C'est pas encore le truc vraiment gaguesque pour le début, il y a une vraie intrigue et tout ça tu verras.
Voilà,
mais pas mal.
C'est surtout dû au format, hein. Le format est complètement différent. Hein.
Ah oui, on est en 30 minutes et ça change vraiment voilà. Tout sur la construction, puisque la partie qui est juste avant la musique qu'on a entendue dans le premier épisode, en fait, fait référence à ce qui se passe à la fin. Et là, ça change tout.
Alors par contre, ce qu'il faudra noter également, hein, c'est que bon, dans les précédents tomes de Kaamelott, c'est-à-dire les versions courtes qui étaient passées en première partie de soirée sur M6, hein, telles qu'on les connaissait, hein, d'accord, eh bien, il y avait ce qu'on appelle l'équipe récurrente d'Alexandre Astier, son frère, son père, toute la bande, hein, qui jouait donc tous les chevaliers de la table ronde.
Sa belle-mère, c'est sa mère? Ou non, ça n'a rien à voir.
Non, je crois pas. Mais c'est une actrice qui fait partie de la même bande en fait, hein, qui
parce qu'elle est excellente, hein.
Qui fait partie du noyau de c'est une troupe, enfin pas une troupe, mais pas mal de comédiens qui sont de la région de Lyon,
oui.
Et qui ont joué ensemble durant de nombreuses années quoi.
Mais c'est la semaine dernière sur dans Pif Paf sur Paris Première, ils avaient invité Astier et ils ont posé la question, mais vous regardiez à télé et tout? Non. Je la regarde jamais, mais un jour j'avais rien à faire et j'allais allumer le poste et je me suis dit qu'est-ce que je veux regarder. Et c'est comme ça que lui serait venue l'idée de Kaamelott. Donc pas
en
mal.
Fait,
qu'au départ il y a eu un court métrage surtout.
Oui, Yes Irae, mais ouais, en fait c'était une troupe de théâtre à la base en fait.
Voilà, bah oui, de toute façon la majeure partie des comédiens et des comédiennes principaux de l'origine de Kaamelott, hein, sont des comédiens de théâtre qui ont un petit peu fait de cinéma, de télé bien entendu, hein, mais enfin bon, qui sont plus habitués au théâtre. Et avec justement, au fur et à mesure des saisons, entre guillemets, eh bien, l'apparition de guest stars, on va dire, hein, de la télé, qui se disaient « Ok, c'est super bien, c'est toujours bien de faire partie du casting, ne serait-ce pour un ou deux épisodes. »
Et ils disaient que les guest stars, c'était à la demande des guest stars.
Oui,
l'équipe n'est jamais allée démarcher.
C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Hein, c'est les types qui se retrouvent dans leur télé. L'agent qui parle « Ah, t'as vu ça, c'est pas mal, ce serait bien que tu fasses une petite apparition là-dedans, tu vois, ça va renforcer cette top credibility. »
Quand c'est pas la... Quand c'est pas la boîte de prod qui dit à Yann Le Bolloc, dit ça te dit pas de donner un petit coup de main là aux petits jeunes, ils ont besoin qu'on leur refasse une table.
Oui, parce que Le Bolloc c'était dès la première saison quand il s'est fait la table ronde. Ouais. Ouais.
Ouais, non, mais bon, et après, bon, on a eu des.
Allez, je vous mets une petite signature, c'est classe.
Et au fur et à mesure, des castings un petit peu plus prestigieux, entre guillemets, toujours. Et là, dans cette dernière saison, dans cette saison 6, hein, dans ces 9 épisodes, alors là, on a vraiment le gratin des acteurs français. Bon, je parle pas des acteurs français qui sont à 2 millions de dollars pour le film, genre Depardieu, quoique, et là, bon, bah, ce sera pas le cas.
Il y a été.
Oui, mais bon, là, c'était plus un guest starring pour la décor. On va dire, hein, Depardieu, de temps en temps, il y a quand même encore quelques éclairs de...
Ah, pourquoi il a apparu dans Kaamelott?
Oui.
Mais oui.
Il me semble.
Dans les trois premiers, ça c'est sûr que non. Oui. Mais il y a peut-être dans le 4, à partir du 4.
Oui, non, mais bon, il a fait une apparition. Mais par contre, bon, moi, c'est vraiment comme le haut du panier, hein, avec Jacques Chambon, Philippe Mérieux, Patrick Chenet, Pierre Mondy, Franck Pithiaud et encore pas mal d'autres. Hein, qu'on
voit. Bedos.
Oui, non, mais là, c'est vraiment assez top quand même. Et ce qu'il y a de très très bien. Hein, ça, il faut le reconnaître quand même dans Kaamelott, hein, c'est que ces acteurs ou ces actrices-là ne tirent pas la couverture à eux, mais s'intègrent parfaitement dans l'histoire et oui. dans le jeu oui. général.
Ils s'effacent derrière les personnages.
Ils s'effacent derrière leurs personnages, ils n'en font pas trop, ils ne font pas du Bosque si c'est du Bosque, ils ne font pas du Mondy si c'est du Mondy. Non, mais ils sont vraiment dans leur rôle, et là, c'est vraiment très très bien exploité. Là, il faut le reconnaître quand même, que de ce côté-là, c'est vraiment une réussite.
Ah oui, c'est vrai que quand on avait vu... la saison 5 là.
Oui, il cherche Guy Bedos, mais.
Non. Ah oui, punaise. Ah, c'est vrai que ça m'était complètement sorti la tête, mais Guy Bedos, qu'est-ce qu'il était monstrueux. C'est là où tu te rends compte que vraiment les textes sont vraiment écrits pour eux, pour vraiment les faire jouer dans un autre registre. Et ce qu'il expliquait, c'est que même quand ils étaient à Cinecittà, c'est pas évident pour ces acteurs de travailler dans le style télé où ils doivent apprendre la réplique et la faire, et en même temps on va tourner 18 scènes dans la journée. Sachant que lui, il les a écrits dans la nuit. Ah, c'est effarant. Il est absolument effarant.
Donc Kaamelott, c'est ce soir, hein, à partir de 20h40 sur M6, avec les trois épisodes suivants. Le 4, il s'appelle Arturi Inquisitio. Le 5, bon, bien sûr, c'est toujours en latin, hein, de cuisine, s'il vous plaît. Dux Bellorum. Et le 6,
Dux Bellorum, ça veut dire qu'il est général. Hein.
Et est-ce qu'on peut regarder ce soir sans avoir vu les trois premiers?
À mon avis, non. Ah absolument bon non.
Oh putain.
Parce qu'il y a des... Tu te demandes comment finalement Arturius, qui vient de la milice civile, c'est-à-dire il fait partie de la police municipale, comment il se retrouve à être envoyé sur ordre de César en Bretagne. Et ça, tu peux pas... Tu peux pas tester.
Et sinon, une anecdote concernant le tournage à Cinecittà, puisque c'était une interview du père d'Alexandre Astier. Je crois que c'est Lionel ou...
Oui, c'est Lionel,
c'est Lionel Astier. Alors, il disait que lui, en fait, il comprenait pas, enfin, au début, pourquoi son fils lui avait demandé de faire une apparition dans le livre 6, qui est une préquelle, hein, qui se passe à Rome. Alors, il disait, je soupçonne mon fils, parce qu'en fait, il m'a fait tourner le lundi et le vendredi, dans le reste de la semaine, je garde ses gamins. Je le soupçonne de m'avoir écrit des passages dedans pour que je garde ses gamins uniquement en Italie.
Elle est pas mal.
Et donc, ce soir sur M6, après ces trois épisodes de Kaamelott, eh bien, c'est la fin, la vraie fin de Prison Break.
Ah ouais.
Alors vous me dites, bah non putain, c'était samedi dernier.
Ça y est,
ils sont enfin libres, ils ont été réhabilités, le complot du cartel a été démantelé, c'est bon, qu'est-ce que vous voulez dire en plus? Qu'est-ce que vous voulez faire en plus? Eh bien, ce qui se passe, en fait, c'est que ce que nous, on va voir ce soir sur M6 à partir de 23h30, donc hein, c'est assez tard après les épisodes de Kaamelott, eh bien, c'est une suite qui a été tournée aux États-Unis par la même équipe, mais qui n'est pas passée à la télé, qui est sortie directement en DVD.
Hein, oui, parce que les chaînes et puis les chaînes n'en voulaient plus.
Voilà, c'est ça, pour satisfaire un petit peu plus les fans, entre guillemets, mais surtout...
Bien sûr.
Surtout les grands argentiers de la télé, hein, qui se sont dit, bah voilà, une source de revenus supplémentaire. Et donc ce soir, sur M6, on pourra voir donc cette dernière évasion en troisième partie de soirée à partir de 23h30, Prison Break, avec toujours les mêmes et tout. Hein. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que tout le monde a été réhabilité, tout le monde a été libéré, sauf T-Bag. On se demande pourquoi.
Est-ce qu'il a fait des saloperies dans les dernières saisons qu'on n'a pas vu? Encore plus saloperies.
Ouais, non, mais il a le background depuis le départ, de toute façon. Quoi, c'est l'enfoiré de base depuis le départ, alors bon, c'est un peu logique.
Et même le maton chauve là?
Oui, c'est bon. C'est bon. Bah ouais, non, parce que bon, bah justement, il retourne sa veste, mais bon, il arrive quand même à se démerder relativement bien.
Alors, vous avez pas l'image, ami auditeur, mais vous l'avez pas remarqué, mais JB se bouche les oreilles depuis tout à l'heure. Tu veux regarder la fin de la saison ou quoi?
Oui, un jour, j'aimerais bien la voir.
D'accord.
Ouais, non, mais bon, t'en fais pas.
C'est ballot. C'est... Ouais,
t'en fais pas.
Qu'en fait, le dur, c'est.
C'est surtout ballot que tu vois que le bouton mute du casque est vraiment de l'autre côté par rapport à toi. Tu peux pas l'atteindre.
Je m'en tape. De toute façon, le mute, ça veut dire que. Ah oui, effectivement.
Bon, alors sinon.
sinon, il est de l'autre côté.
J'avais pensé au micro.
Alors, du côté de la télé, il y a également des nouvelles chaînes. Alors, je sais pas si vous avez vu cette pub qui passe. Au départ, tu te demandes, mais c'est quoi cette pub? Un petit peu zarbe et tout. T'as trois nanas et un mec et tout. Et puis le mec essaie de faire comme les nanas. Je sais pas si vous avez vu cette pub.
Life.
Non, pas du tout.
Ah,
et en
bon,
fait,
ça c'est fait.
C'est une pub pour indiquer qu'une chaîne.
Tu devrais demander des royalties à force de citer cette chaîne, je trouve.
Ouais. Oh,
On aura peut-être le réalisateur.
C'est pour indiquer un changement de nom d'une chaîne.
Judo.
Et surtout, un passage à un panel un petit peu plus large. Fille TV, vous connaissez, bien oui. sûr. Hein. Fille TV qui
devient Teva.
Qui devient, non, qui devient June TV.
Ah oui,
voilà.
D'accord.
Alors, c'est simplement pour élargir un petit peu le panel au niveau tranche d'âge. C'est-à-dire que la tranche d'âge de Fille TV, c'était du, on va dire, 15-29, on va dire, 15-25 plutôt. Alors que là, on va s'adresser à un panel un petit peu plus large. C'est-à-dire qu'on va faire vieillir un petit peu le panel. Ça va s'adresser jusqu'au plus de 30 ans.
Ça veut dire que les mêmes séries qu'on diffusait il y a 5 ans, on peut encore les passer.
Voilà.
June, c'est comme Junon ou
Juin, quoi. Juin TV, quoi.
Aucun rapport avec Juno.
Voilà.
Non, sinon,
t'as vraiment touché le but avoué, c'est concurrencer Teva, qui fait partie du groupe M6, puisque c'est Lagardère qui est derrière. C'est d'ailleurs, Lagardère, c'est le seul groupe média en France qui ne soit pas encore passé au 16-9, et apparemment aucune chaîne n'est prévue d'y passer chez eux. MCM, Virgin 17 et tout.
Tant mieux.
Moi je dis tant mieux pour d'autres raisons, mais
Ouais,
parce que sur mon écran d'ordi,
je crois qu'on a la même raison, Thomas et moi.
On a les vieux écrans à pub, hein, oui.
Alors,
bah moi aussi, bon.
Là, je vous dirai après.
Non, d'accord, ok. Je voulais encore dire quelque chose justement à propos de cette pub, hein, qu'on peut voir comme ça, qui annonce justement ce changement de nom de cette chaîne et tout. C'est un petit peu dans la même veine, on va dire, que ce que fait Free, hein, c'est-à-dire de la pub complètement décalée, très rigolote et tout, pour présenter.
C'est la pub Virgin.
Et ça marche aussi bien que Free. Et vachement mieux que Numéricable, qui a salement copié Free, hein, pour ses nouvelles pubs, mais avec un niveau vraiment. C'est vraiment dobesque, c'est n'importe quoi.
Non, mais ils essaient Non. Ce que fait Numéricable, c'est qu'ils ont fait appel, alors je sais pas si c'est vrai ou non, à leurs abonnés, en leur disant on vous donne un budget, vous faites un film en 20 secondes, etc. Ils ont essayé de construire une communauté. Free, ils ont eu
quoi.
Un côté décalé qui, je sais pas si tu te souviens, la toute première campagne de pub de Free, où tu as un marin qui se fait qui va voir une pute qui lui dit c'est combien, la pute lui dit c'est gratuit, il monte, et pendant que le marin est en train de la besogner, il y a la pute qui lui fait toutes les pubs. C'était vraiment le début de la campagne de Free, qui était complètement décalée de ce côté là c'était ignoble.
Alors sinon, du côté des nouvelles chaînes, mais ça va s'adresser plutôt à ceux qui sont adultes, on va dire. Et comment parler justement de format? Eh bien, nouvelle chaîne dit chaîne avec format HD, c'est Penthouse HD, oui. Voilà. Ah, tu dis ouais?
Bah, je sais, mais normalement, d'accord. J'ai l'abonnement qui va
d'accord.
avec.
D'accord, ah, c'est bien Free.
Il faut
hein.
que je le débloque. Faut que
d'accord,
je le débloque.
D'accord. Et également French Lover TV. French Lover TV, dont la marraine est Ovidie. Et qui est
actrice.
Présentée, qui est ex-actrice, réalisatrice hein, de Film X, et qui est présentée,
j'ai pas précisé.
Qui est présentée comme étant une chaîne d'éducation sexuelle pour accompagner les adultes dans leur apprentissage avec de nombreux programmes interactifs. Que du bonheur.
On va pouvoir jouer avec nos bâtons de joie, nos joysticks.
Voilà, c'est ça quoi.
Et appuyer sur le bouton rouge.
Découvrez plein d'usages avec votre zapette. Ça c'est sur French Lover TV.
Rappuie.
Alors redevenons un petit peu plus sérieux. Le documentaire qui va tuer cette semaine, c'est sur Arte mercredi prochain. Et c'est un documentaire en deux parties, mais par un des grands du documentaire, William Carell, qui nous avait fait des trucs absolument bluffants, et qui là nous sort un documentaire sur 1929. 1929. Rappelez-vous cette crise,
la crise
qui est devenue mondiale et qui a provoqué, on va dire, une certaine guerre qui est également devenue mondiale. Tout ça raconté par le détail et avec le très grand sérieux et la recherche d'images toujours pertinentes de William Carell et de toute son équipe.
C'est surtout ce qui est amusant, c'est que j'ai vu un documentaire sur toute l'histoire sur la crise de 29, sur comment elle s'est déclenchée. C'était des courtiers qui avaient emprunté auprès des banques pour acheter des actions et qui prêtaient auprès de leurs clients. C'est-à-dire tout le monde spéculait à crédit.
Oui.
Ça vous rappelle pas quelque chose, ça ?
Si, ça nous rappelle quelque chose. C'est marrant, hein. C'est marrant.
Et en fait, c'est exact. Toutes les législations qui, depuis 10-15 ans, ont été supprimées, avaient été mises en place en 1929. Et on a dit, mais non, il n'y a pas besoin, ça a marché, il n'y a aucun souci.
Mais oui, le marché se régule tout seul. Mais oui, facile.
Tant qu'il y a du pognon.
N'importe quel prof d'économie vous le dira. L'économie est une science, bien sûr.
Arrête, tu vas réveiller Raymond Barre.
Foiré.
Fraisière, pire.
Toujours dans le même domaine un petit peu. Et là, bon, bah, chaque fois que ça passera, de toute façon, je vous en ferai part. Une mini-série qui est à présent diffusée sur Arte. Alors, Justice à Vegas, c'est complètement terminé. Il n'y a plus. Le dernier, c'était hier soir. Et c'était le premier, d'ailleurs, où les accusés sortent libres du tribunal. Hein, ça, c'est pas mal. Quoique, bon, je sais pas quoi, avec leur gueule de con et tout, je les aurais bien vu faire prison à vie, quoi, tu vois.
J'ai juste vu le début où ils étaient bien préparés par leurs avocats sur ce qu'il fallait dire et tout.
Alors, ce qui est vachement marrant, c'est la différence. Et je pense que c'est peut-être pas innocent de la part des producteurs Poncé et Lestrade de passer cet épisode en dernier. Car c'est le seul épisode de Justice à Vegas. Enfin, double épisode, hein, c'est chaque fois deux épisodes qui forment une histoire. Hein. Eh bien, les quatre premiers, les accusés étaient toujours défendus par des avocats de l'aide judiciaire, c'est-à-dire des avocats de l'assistance judiciaire, hein, qui sont gratos, quoi. Hein, si t'as pas de fric, tu auras droit à un avocat quand même. Hein.
Commis d'office,
voilà, c'est ce qu'on appelle commis d'office en France. Mais dans celui d'hier soir, eh bien, comme ce sont deux mecs d'une trentaine d'années qui ont plus ou moins réussi dans les affaires, comme ils le disent eux-mêmes, ce sont des avocats privés. Hein, donc, et puis bon, vu la gueule de l'avocat, surtout l'italien, là, Gentile, il devait pas se faire payer avec des cacahuètes, à mon avis. Il y a qu'à voir à la fin où, quand ils ont gagné, ils vont dans une boîte de nuit, lap dancing, champagne et tout, tough à gogo avec des meufs. si, c'est filmé en plus, tu vois tout, quoi, tu vois, c'est ça qui est vraiment très très bien dans le documentaire. Et bon, tu te dis, ok, y a quand même un petit peu une justice à deux vitesses, selon que tu aies droit à des avocats qui essayent de faire leur possible, mais avec leurs moyens. Et d'autres qui sont vraiment rodés à ce genre de truc là, parce que on voit bien, ça se joue également sur la gueule du client, sur la façon, sur les attitudes à avoir, à adopter dans le tribunal, la façon d'impressionner un jury.
C'est le principe de la justice.
C'est dingue, c'est absolument dingue.
Que le meilleur avocat gagne.
Ouais, non, mais c'est assez dingue à ce niveau-là. Et je pense que c'est pas complètement innocent, hein, cette espèce de suite logique pour arriver à cette dernière histoire où justement, on montre qu'il n'y a pas que des gens qui sont dans la neige, qui commettent une connerie ou qui font une grosse bêtise ou qui sont vraiment des enfoirés finis, qui finissent par plonger et pour prendre de la prison pour 20 ans, 30 ans ou à vie. Et là, il y en a d'autres qui réussissent à sortir quand même. Il n'y a pas que des coupables. Là, ça donne encore à réfléchir, hein, de toute façon. Mais c'est complètement terminé. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que dans la même tranche horaire, à partir de vendredi prochain, Arte nous propose une série déjà diffusée par Canal+, puis par Canal Jimmy, puis encore par une autre chaîne dont je ne me souviens pas, mais là il s'agit de cette excellente mini-série anglaise qu'est State of Play, jeu de pouvoir, avec John Sim, David Morrissey.
Il y a JB qui
absolument
fait des...
Excellent, je t'ai chambré,
tu es en train de le préparer, donc vas-y.
Non, là, j'ai jubilé quand je l'ai vu, cette série. C'est une mini-série de 6 épisodes.
6 épisodes.
Ça a été adapté au cinéma par les Américains.
Tout à fait, il n'y a pas longtemps là.
C'est sorti cet été, c'était
avec
correct.
Russell Crowe.
Oui, tout à fait.
Ah, je savais pas que c'était inspiré d'une série, en fait.
Si.
Mais c'est vraiment...
Adapté, on va dire, adapté. Hein.
C'est quelle durée comme série ?
Quelle durée ? C'est-à-dire le format ?
Ouais,
c'est
le
50 minutes.
C'est les 50 minutes, il y a 6 fois 50.
Réalisé par David Yates, qui a été récupéré ensuite pour un...
David Yates et Harry Potter.
Pour un Harry Potter, exactement. Bah, on
les,
va chercher.
Les derniers Harry Potter, je crois.
Exactement. Et très bon réalisateur, très bon casting.
Ouais, ouais, les acteurs sont excellents.
Je vois Bill Nighy en photo.
Bill Nighy, patron de presse, c'est le patron de John Sim dans l'histoire. Rien à dire, hein, c'est vraiment du top niveau, hein, c'est la télé anglaise. Hein, là, elle démontre encore son savoir-faire.
Ça passe quand?
Vraiment.
Allez,
c'est vendredi prochain.
22h10 sur Arte.
22h10 sur Arte.
Et je vous conseille
Arte.
Vivement, c'est le premier épisode. Bon, il y en a 6, c'est très court.
C'est juste chiant, je prépare l'émission à ce moment-là, moi.
Ah bah, et c'est tu fais comme moi, tu décales. Ça monte en puissance et c'est du... C'est de la très bonne intrigue et très bien montée.
Ah ouais, non, mais là, il n'y a rien
d'accord,
à dire.
D'accord, bah on te fait confiance. J'espère que ce sera diffusé en multilingue sur Arte pour une fois.
Voilà, et ça tombe bien parce que vendredi, c'est vraiment soirée polar à fond les manettes puisque sur 13e rue, il y a les épisodes de New York District ou New York Police Judiciaire ou Law and Order, comme vous voulez. Non, là, c'est le normal, hein, c'est pas l'unité spéciale. On en est à la saison 18 et là, c'est les deux derniers épisodes de la saison 18. Et là, ça y est, hein, Jesse L. Green... est parti, hein, donc n'est plus le collègue de Jérémy Sisto et il est remplacé donc par Anthony Anderson qui avait enquêté quand il était aux affaires internes, qui avait enquêté justement sur Jesse L. Green à propos de cette histoire qui est survenue dans l'épisode 14. Et là, Anthony Anderson, on l'a vu déjà hier soir et tout, bon ben ça va, il se démerde pas trop mal. Anthony Anderson, on se rappelle qu'il avait fait une bonne apparition dans pas mal d'épisodes de la première ou de la deuxième saison de The Shield. C'est lui qui joue le rôle de Antoine Mitchell, espèce de dealer là, un peu gros comme ça, un gros black bien enveloppé et tout quoi, qui joue plus ou moins double jeu, hein, avec Michael Chiklis et avec ses collègues de la zone, et là ben il se démerde vraiment très très bien. Et dans un épisode d'hier soir, c'était assez rigolo parce qu'on a pu voir une espèce, alors premier épisode qui était vraiment l'épisode tourné où on évoque la scientologie sans l'évoquer, hein, parce que bon là on parle plutôt de systémologique ou un truc comme ça quoi, tu vois, pour inventer une petite histoire et tout qui est sympa. La deuxième histoire aussi assez rigolote parce que eh bien des deux districts à Tornay, c'est-à-dire qui représentent le ministère public,
voilà, c'est l'accusation.
Linus Roach de l'accusation.
Le procureur.
Et, Alana de la Garza, qui joue le rôle de l'Anana, donc, qui est sa collègue, hein, sous les ordres de McCoy, eh bien, se retrouve par le biais d'une grève des assistants judiciaires, dépêchée à la défense du client qu'ils accusent au départ. Alors c'est assez rigolo. Et donc toute l'histoire se passe entre Linus Roach, qui représente l'accusation, et Alana de la Garza, qui va défendre le client. Donc c'est assez rigolo, c'est assez bien foutu. Là,
Il doit avoir une sale ambiance au bout d'un moment. Toi, tu rentres plus dans mon bureau.
Non. Et ça, c'est vraiment très très bien rendu. Là, vraiment, ils démontrent encore tout leur savoir-faire, hein, dans cet épisode-là, où vraiment ils arrivent à détourner un petit peu les choses, à rendre l'histoire vraiment très très intéressante. Donc, je rappelle, vendredi prochain, 13e rue, 20h40, les deux derniers épisodes de la saison 18 de New York District, avec Jérémy Sisto, Anthony Anderson, Linus Roach et Alana de la Garza. Sans oublier Sam Waterston, bien sûr, dans le rôle de McCoy. Et ça tombe bien parce que ça finit juste pour le début de State of Play sur Arte, vendredi prochain. Alors, des films à la télé à présent avec du tout, de n'importe quoi, du bon et du mauvais, et du passable.
De la brute et du truand ? Non.
Et tout d'abord un western, c'est sur RTL9 ce soir à 20h35, L'homme de la loi de Michael Winner en 71 avec Brut Lancaster, Robert Ryan, Lee Jacob. Ah, quand même. ça le fait. Sinon, sur Sci-Fi, pour ceux qui l'ont jamais vu, eh ben, voyez un bon film de Jean-Pierre Jeunet, aidé par cela, par son copain Caro, La Cité des Enfants Perdus, en 95, avec l'énorme Ron Perlman, avec Daniel Emile Fork, regretté, Daniel Emile Fork, et Dominique Pimon. Sinon, sur TCM, on en parle beaucoup, mais peu de gens l'ont vu.
Ils font leur 10 ans, donc il y a 100 grands films ce mois-ci, sur TCM.
Ah bah, si tu le dis. Non, mais là, c'est sur Sci-Fi.
C'est la... Tu parlais sur TCM.
Oui, mais là, c'est sur Sci-Fi, la Cité des Enfants.
Oui, je sais, mais comme tu fais la transition...
T'as commencé à parler de TCM, tout d'un coup.
Sur TCM, sur TCM, généralement, il n'y a que des bons films, quoi. En plus,
oui.
Quoi.
Oui, non, mais là, il y a des putains de documentaires qui sont hallucinants.
Et ouais, c'est le plus de TCM.
Ah, mais c'est vrai que ce soir, il y a... Et mes seins. Tu les aimes, mes seins?
Voilà, il a tout compris, le mépris de Godard avec
deux
Bardot,
documentaires, un avant, un après.
Avec Michel Piccoli, Fritz Lang dans son propre rôle,
oui.
N'importe quoi. Non, c'est non, je plaisante là quand même quoi. Bon, quoique moi franchement, je préfère Pierrot le Fou de Pierrot de Godard. Pour moi, c'est le meilleur Godard. De toute façon, c'est celui qu'il a tourné juste avant.
Surtout que la scène dont je viens de parler, il l'a fait à la demande des distributeurs américains parce qu'il fallait qu'il y ait du cul.
Ouais. Non, mais bon.
Un film d'auteur s'en prend une claque quand tu sais ça.
C'est quand même du très très grand Godard. Hein, ça, il n'y a pas de problème.
Ah, oui,
bon, c'est sûr, il n'y a pas d'action. Hein, si vous cherchez de l'action, laissez tomber quoi. Si, il y a quand même. Il se déplace en voiture.
Hein. C'est vrai, il y a des travelling.
Ouais.
Enfin, tu vois le travelling quoi.
Voilà.
C'est-à-dire, tu vois la caméra bouger.
Ouais.
Avec
toute
l'équipe.
Ouais. Ou alors, sinon. Non, je vous propose également ce soir une curiosité, et ça c'est pas mal car il s'agit d'un pilote pour une série mais qui n'a jamais donné lieu à de suite. C'est les aventures de Nick Carter. On connaît Nick Carter, hein, le détective qui est également boxeur et tout. Et là c'est un téléfilm donc de Paul Krasny en 72 avec Robert Conrad dans le rôle titre de Nick Carter, donc hein, qui joue le rôle Nick Carter, et Shelley Winters. Donc curiosité peut-être à se regarder tranquille. Et sinon un petit film thaïlandais sur Virgin 17 ce soir à 20h35.
Où est mon éléphant?
The Kingmaker de Lek Kittaparaporn en 2005. T'as vu, je l'ai bien dit. Hein.
Et Kittaparaporn, c'est le gars qui avait fait le très mauvais Tiger Blade.
Ah bah tu
et
vois
je
là,
me souviens
ça doit...
parce que Manu m'avait laissé un commentaire sur le blog, il m'avait dit il a un nom à faire du porno.
Ouais, bon, voilà, facile.
N'oubliez pas d'aller voir nos blogs, le suppléments-weekend.fr, vous allez dans notre équipe et il y a les liens vers les blogs. Allez-y,
facile.
Nos chroniques, pardon. C'est
avec Gary Stretch et entre autres hein, Jonathan Rhys-Davies et ça raconte l'histoire de pas Vasco mais Fernando de Gama qui au 16e siècle essaie de rallier l'Asie quoi, et se fait choper par des marchands d'esclaves et tout et se retrouve vendu à la cour du roi et donc va aider le roi à conquérir des royaumes et,
c'est le film thaïlandais ça.
Oui c'est le film thaïlandais quoi, donc
ça
peut être tout et n'importe quoi de toute façon. Sinon demain sur RTL9 encore du western et c'est pas un des meilleurs Hawks hein. Hawks c'était pas loin de la fin quoi. D'ailleurs, faut le dire, hein, c'est Rio Lobo. Hein. Attention à ne pas confondre avec Rio Bravo, hein, celui avec Dean Martin et toute la bande. Là, c'est Rio Lobo avec John Wayne quand même, hein, et Jennifer Olin, O'Neill, Jack Elam et Chris Mitchum. Mais c'est quand même un bon western. Sur NT1 demain, parce que bon, le dimanche soir, faut bien se détendre un peu les neurones. Il y en a marre des films d'action, il faut bouger. Alors bon, un petit peu de film franchouillard comme ça, la bonne déconne. Et c'était quand même la bonne époque du film français, du film La veine comique, Les malheurs d'Alfred, de Pierre et avec Pierre Richard, Annie Dupéret, Pierre Mondy, Jean Carmet, Robert Dalban, 72. Et c'est quand même pas mal, faut le dire. Hein. Non, franchement, quoi, ça se laisse regarder sans problème. Quoi. Si t'as pas envie de trop réfléchir sur un film et tout.
Bah, en même temps, t'as Roland Topor et Yves Robert qui font le scénar quoi.
Ça vaut le coup quoi, c'est pas mal hein.
Cabotine
non même pas quoi, non c'est bien, c'est du bon film français de l'époque hein, franchement bon. Quoi. Sinon sur NRJ12 on a une soirée Coluche avec à 20h35 le bon roi d'Agobert de Dino Risi, Coluche, Carole Bouquet, Tougnazi, Michel Serrault, suivi
grosse parodie de tous les contes et légendes.
Ouais, mais bon...
C'est marrant. Pas... C'est pas vraiment le meilleur, mais c'est marrant.
Ouais, ça laisse un goût de...
D'inachevé.
D'inachevé, je sais pas, quoi. Enfin bon, on sait pas trop, quoi. Suivi à 22h30 de La femme de mon pote de Bertrand Blier avec Isabelle Huppert, Coluche, donc Thierry Lhermitte et Farid Chopel, qui à l'époque il balançait pas encore les chiens par la fenêtre. Écoute, faut le dire hein, quand même. Sinon, pour dans un autre genre, sur Ciné-Cinéma Frisson à 22h10, L'antre de la folie de Carpenter.
Ouais.
Facile, hein, facile.
Ouais.
Bon, il y a Charlton Heston dedans, quoi, mais bon, tant pis. Hein.
Ouais.
On va dire tant pis, quoi.
Ouais, mais un bon rôle.
Ouais. Ou alors, et alors là, attention, c'est
en
un
plus
film.
Avec cette réplique de qui me fait toujours rire quand je l'entends, c'est la l'éditrice qui dit à Sam Neill, vous avez jamais lu ces bouquins? Ça dépend où ils avaient en cassette.
Ah oui, hein, Stephen King.
Sinon, un des chefs-d'œuvre de Wes Craven sur Ciné Cinéma Club à 20h40, la dernière
Starman
maison sur la gauche.
Starman, c'est Carpenter.
Oh, pardon.
Ouais, c'est Carpenter. De 72, donc. Et je peux dire qu'à l'époque, bah, ça a dépoté hein, pour les gens qui ont vu ce film à l'époque et tout, parce que c'est vraiment hyper violent, hyper nauséabond. C'est vraiment le film qui te fout mal à l'aise, pratiquement du début jusqu'à la fin, hein, avec David Hess, Lucy Grantheim et Sandra Cassel. Et là, tu comprends que ce soit un moins 16. Là, il n'y a pas
c'est
de problème.
Quoi comme film
la dernière maison ah, sur oui la gauche. Là, vraiment, tu comprends. Hein. J'ai pas vu le reboot qui a été fait, qui est sorti l'année dernière, me semble-t-il, qui paraît-il. Aussi très très bien dans l'esprit, qui a été adoubé par Wes Craven lui-même, mais alors celui-là déjà, je veux dire, je crois que c'était son deuxième film, et là il a vraiment tapé très très fort dans le glauque, dans la violence, vraiment c'est ça fout mal à l'aise, hein, y a pas de problème, hein, déjà à l'époque il y avait du sang, quoi, tu vois, ça charclait sauvage, hein, vraiment ça charclait sauvage, hein. Je te prêterai la cassette, tu vois, mais... là c'est... sur Ciné-Cinéma Classique, là, c'est complètement différent. C'est une soirée consacrée à Jerry Lewis avec deux époques. Hein, tout d'abord, à 20h40, Jerry la grande gueule, c'est-à-dire l'époque des années 60 où il tournait et réalisait ses films et où il était tout seul, quoi, puisqu'il était fâché avec Dean Martin. Avec, donc, outre Jerry Lewis en 67, Susan Day et Buddy Lester. C'est après on va dire, les grands Jerry Lewis des années 60, à savoir Dr. Jerry et Mr. Love. C'est ça, Dr. Jerry et Mr. Love. Et l'autre qu'il avait tourné avant aussi, qui était pas mal. Et c'est suivi, donc, de la période où ils en ont tourné pour au moins une quinzaine, les deux ensemble, hein, puisque c'était des comiques de musical qui se retrouvaient, qui étaient régulièrement invités à la télé dans les années 50. Le Jerry Lewis et Dean Martin, bien entendu. Et là, c'est le film qui s'appelle Le Trouillard du Far West, tourné par Norman Taurog, qui a pratiquement tourné tous les Jerry Lewis Martin à l'époque, hein, en 56. C'est à 22h25, dimanche, demain, donc, sur Ciné-Cinéma Classique. Toujours dimanche, on a sur TCM Du silence et des ombres de Robert Mulligan avec Gregory Peck et Brock Peters, ça c'est un western. Sinon sur la chaîne Action, ah ouais, la soirée spéciale Delta Force, Opération Delta Force, à pas confondre
j'ai vu la bande annonce,
voilà, à ne pas confondre avec le Delta Force de Chuck Norris,
ouais.
Hein, ça n'a rien à voir.
Là c'est le 4 et le 5 là.
Non, c'est le 1 et le 2.
Ah, mais il y avait le 4 et 5 la semaine dernière.
Ah non, mais là, c'est le 1 et le 2. C'est-à-dire, le 1, celui-là, il est vraiment regardable. Jeff Fire, Nick Hudson et tout. Enfin bon, sévèrement burné, comme dirait l'autre. Et le 2, tourné par Yossi Vine 2 ans après, en 98. Bon, ben, on va dire déjà, les acteurs du premier étaient fatigués, donc ils n'ont pas fait le 2.
Oh.
Alors ça la fout un petit peu mal, quoi. Mais pour rigoler comme ça, quoi, hein, pour s'endormir, ça vaut le coup, quoi. Alors lundi sur France 3 à 23h15, le Clint Eastwood de la semaine quand même, et c'est un Clint Eastwood que peu de gens connaissent, parce que il y a pas de gun dedans, il y a aucun gun dedans, que dalle, il y a que du piolet, il y a que de la corde. C'est La Sanction, le film d'escalade de Clint Eastwood, rappelez-vous, musique de John Williams, George Kennedy, Vanetta McGee, Jack Cassidy, et cette histoire, alors je ne sais plus quel rôle il a exactement, je crois que c'est un éditeur, et donc qui se rend en Autriche, dans les Alpes autrichiennes, parce qu'il y a une histoire un petit peu zarbie, donc il doit en fait surveiller un des membres d'une équipe d'escalade, hein, qui vont faire une expédition, qui vont gravir une montagne, et donc ça va se passer plutôt bien, plutôt mal, je vous laisse regarder et tout, c'est pas mal, c'est vraiment un film qui est pas mal, et qui détonne vraiment dans la filmographie de Clint Eastwood. On se demande ce qu'il a été foutre en Autriche, je crois que c'est en Autriche ou en Suisse, pour tourner ce film-là, quoi. Mais enfin,
tu me diras que son prochain film, il le tourne à Lyon, alors...
Ouais. C'est bien foutu, ça fonctionne, ouais. Hein, et c'est sur France 3 donc lundi prochain à 23h15.
Oh,
sur RTL 9 lundi prochain 20h35, Mutant Aquatique en liberté de Sean Cunningham, mal, avec Marius Weyers, Miguel Ferrer, Nancy Everard, Greg Evigan et Taurine Black. Et c'est la soirée mutante sur RTL 9 par la mutante justement de Donaldson avec le casting qui
Natasha
tue.
Natasha Henstridge.
Bah ouais, le casting.
Forest Whitaker, Ben Kingsley,
Michael Madsen, Alfred Molina. Non, j'étais plus. Non, mais franchement, avec un casting comme ça, en principe, là, t'as tous les producteurs qui sont là, ils voient le casting, ils disent ouais, tu veux combien de dizaines de millions de dollars pour faire le film ?
Quoi, avec l'héroïne, elle est à poil ? Ah ouais ?
Oh ouais. Tout de suite.
Attends, t'as pris qui ? Ah oh ouais.
Alors, il faut quand même reconnaître
quelque
chose,
c'est
que c'est certainement lundi prochain qu'il y a la meilleure soirée, la meilleure offre au niveau cinéma quand même, parce que sur Paris Première, il y a deux chefs-d'œuvre du cinéma d'action. À 20h35, Terminator de Cameron, oui. Et suivi du Rambo de Ted Kotcheff à 22h30. Rien à dire. Et vous repérerez dans Rambo, si vous ne l'avez jamais vu,
Horatio Caine,
lui-même, très jeune, très très jeune,
à moustache,
très roux.
Oui, très, bah, comme ça, comme d'habitude, hein, ça, y a pas de problème.
Et à l'époque, il débutait dans une petite
sur Direct 8, toujours lundi prochain, 20h40, The Big Lebowski, yes, de Joel Cohen. Ouais, facile. John Goodman, magnifique.
Samedi, c'est Shabbat.
Jeff Bridges, magnifique. Sur Cinéma Classique, une petite curiosité signée Henry Levin en 65. Henry Levin, c'est quand même le monsieur qui nous avait fait Le Magicien d'Oz, la version en 39 avec Judy Garland.
En Technicolor. Avec
voilà, ouais,
bah,
ouais.
Qui est en cours de diffusion sur TCM.
Et non, c'est la suite qui est en cours de diffusion, c'est Oz le retour.
Non, ils ont passé l'autre cette semaine.
C'est le retour.
Et là, il s'agit de Gengis Khan en 65 avec Omar Sharif.
Gengis Khan.
Avec Omar Sharif dans le rôle titre et Stephen Boyd. Stephen Boyd, c'est quand même le mec que c'est le pote de Charlton Heston. Dans Ben-Hur, qu'on se demande s'ils ont pas des amitiés.
Vous arrêtez avec les groupes disco allemands.
Yes. Et il y a également James Mason et la présence féminine est tenue par Françoise d'Orléac. Ouais, facile. Sur TCM, là, c'est une soirée un petit peu western, on va dire, quoique le premier c'est pas tellement western. Encore que, ouais, quand même, c'est Délivrance de John Boorman à 20h40 avec John Voight et Brut Reynolds, suivi d'un Western de Robert Altman à 22h35, John McCabe en 71, c'était juste avant sa période privée.
Ouais, avec Warren Beatty.
Après, il a fait le privé avec Elliot Gould et tout, et puis l'autre, la suite, je me rappelle pas comment il s'appelle. Et là, c'était sa période western, donc avec Warren Beatty, Julie Christie, René Auberjonois, qu'on retrouve dans Deep Space Nine. Star Trek et également William Devane et également Corey Fisher, donc dans John McKay de Robert Altman. C'est sur TCM lundi prochain à 22h35. Mardi sur Canal+, Les Promesses de l'Ombre, Cronenberg, rien à dire, pas de problème. Sur W9, deux Astérix, celui avec les Vikings et celui avec les Indiens.
On parle d'animation.
C'est les nouveaux, hein, c'est les récents.
Relativement, ouais. Sur Sci-Fi. Sci-Fi, 20h45, Mammouth de Tim Cox, celui-là je vous l'ai déjà programmé, avec Vincent, 7 jours pour agir, Ventresca, Summer Glow quand même, Tom Skerritt.
Elle danse encore ou
y a pas de problème, tant pis, il y en a d'autres qui jouent dans les dopes, t'en fais pas, tu verras. Sur TF6, le seul, l'unique, il n'y en aura jamais deux comme ça, et pourtant ils en ont fait 6 ou 7.
Oh.
Police Academy de Hugh Wilson, mais le seul, le vrai,
Steve Guttenberg,
Kim Cattrall, ça vaut le coup quand même. Sur TV Braze, mardi prochain, Les Dents de la Mer 4 à 22h20 de Joseph Sargent avec Lauren Gary, Michael Caine, mais qu'est-ce qu'il allait foutre là-bas ? Les pépettes. Mario Van Peebles, qu'est-ce qu'il allait foutre là-bas ? Les pépettes. Et Lance
J'adore
West.
Parce que JBI prévoit la réplique.
Western sur Cinéma Classique mardi prochain avec. Alors là, c'est une soirée Alan Ladd, et là, deux super westerns. L'Homme des Vallées Perdues à 20h40 de George Stevens, avec outre Alan Ladd, Gene Arthur, Van Heflin, Jack Palance dans le rôle méchant, et là, il est très méchant. Et bien sûr, c'est un western, donc il faut Ben Johnson, hein, c'est normal, quoi. Et à 22h35, celui-là, il est d'enfer, marqué au fer de Rudolf Maté en 50 avec Alan Ladd, Mona Freeman et Robert Kiss. Rudolf Maté, qui est d'ailleurs le réalisateur qui a tourné le premier peplum de l'histoire du peplum, la tunique, rappelez-vous. Silence complet. Bon d'accord, ok, c'est tombé à plat.
Excuse-moi, je disais autre chose.
Bah, la ouais, mais, non mais c'est ça, la culture ciné-ordinateur, tu vois, c'est c'est pas terrible.
Attendant, il te reste moins de 5 minutes et il va falloir que tu cales le sport dedans.
Ouais, d'accord.
Parce que moi je file là.
Bon, sur la chaîne Polar, mardi prochain, Coplan sauf sa peau, d'Yves Boisset avec Claudio Brook, Margaret Lee, Bernard Blier, Jean Servais, c'était en 67, suivi d'une curiosité qui se laisse regarder quand même à 22h50 si vous ne le connaissez pas, c'est le Patrice Chéreau de 74, tiré d'un roman de James L. Chase, La chair de l'orchidée, avec une Charlotte Rampling vraiment bombastique à l'époque, hein, parce que là, quand tu la vois dans la pub pour les
tomber,
raison, c'est bon, une d'accord. Très bonne idée.
Edwige Feuillère et tout, et bon, il a pris la chair de l'orchidée, alors que dans les bouquins de Chase, ça fait suite à Pas d'orchidée, Miss Blandish. Et bon, c'est deux bouquins qui sont un peu spéciaux dans la bibliographie de James L. Chase, parce que ce sont deux bouquins qui sont vachement plus trash que ce qu'on peut habituellement lire chez Chase, c'est l'enquête policière classique et tout, des mecs qui font des conneries et tout, mais qui se font gauler à la fin. Alors que là, c'est vraiment assez glauque quand même, c'est vraiment plus glauque, hein. Peut-être pour ça que ça a plu à Patrice Chéreau. Et là, le film, vraiment, bon, est un petit peu dérangeant, on va dire, quand même. Sinon, on a mercredi, Canal Plus Family à 20h40, Tintin et l'affaire Tournesol, la BD franco-belge. Il y a également le cinéma franco-belge. C'est la première fois qu'on mettait Tintin à l'écran en 64 par le réalisateur belge Ray Gossens.
Non, c'était pas la première fois. Il y a eu un film qui a été fait par des marionnettes en 53-54 par un amateur. Et qui est au stade de moyen métrage, je crois, qui dure 80 minutes, un truc comme ça.
Sinon, RTL 9.
C'était la première fois officiellement.
Ouais.
Hein,
RTL 9, mercredi prochain à 22h15. L'homme de guerre de Perry Lang avec Dolph Lundgren, Charlotte Lewis, Anthony John Dennison, Ray Luca et Kevin Teague. Ou alors encore Dolph Lundgren le même jour, à la même heure, non, à 20h35 sur NRJ 12, dans Mission Stormcatcher de Anthony E. Cox avec Dolph Lundgren, donc Mistro Clark et Robert Miano. On a également un très beau film sur ciné-cinéma classique mercredi prochain. À 20h40, L'éternel retour de Jean Delannoy en 43 avec Jean Marais et Madeleine Sologne, scénario de Jean Cocteau qui revisite
Lundgren.
qui revisite le mythe de Tristan et Iseult. Là, ça n'a rien à voir avec Dolph Lundgren. On a également sur la Ciné Polar, mercredi prochain à 21h, Double Vision de Robert Knight 191 avec Kim Cattrall et Navin Andrews, adaptation d'un bouquin Saïd. De Mary Higgins Clark. On a également Les héros de Télémark mercredi prochain sur la chaîne Action à 20h40. Et sinon, jeudi, Virgin Suicide de Sofia Coppola sur Arte à 20h40. Le meilleur, JCVD, c'est pas moi qui le dis, c'est Thomas qui le dit, Double Impact de Sheldon Lethich.
Ouais, le meilleur, c'est quand même Piège à Hong Kong.
Ah, je suis content que tu dises ça.
13h57.
Parce que j'adore ce film, moi. Quoi, je l'ai vu deux fois, trois fois au moins. Quoi, et bon, je suis content que tu dises ça. Sinon,
bon,
jeudi,
l'agenda, on n'aura pas le temps.
Jeudi, on a également Six filles à 20h45. Celui-là est à ne pas louper parce qu'il va falloir bien se rappeler tout ce que Corinne Nemec dit dans ce film. Les requins tueurs.
Ah oui, c'est vrai.
De Danny Lerner en 2005 avec Vanessa Angel et Corbin Bernsen.
Je rappelle que Corinne Nemec, on va peut-être avoir une chance de l'avoir d'ici fin novembre.
Bah justement, donc, c'est pour ça qu'il
faut ressortir. Il faut avoir du grain à moudre, mon gars.
Il sera au Toulouse Game Show, donc qui aura lieu 28 et 29 novembre, et on espère qu'on sera en direct là-bas.
Voilà, je termine donc vite fait. Alors, avec vendredi, RTL 9, 20h35, un des très bons Oliver Stone. Il a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur pour ce film, né un 4 juillet, où on a un Tom Cruise qui, pour une fois, il est pas mal, c'est normal, on reconnaît pas trop, il est barbu et tout, quoi. Alors, ça va, quoi.
Il est paralysé.
Ouais, il est paralysé en plus en fauteuil roulant, donc ça le fait, quoi. Et il fait pas des cascades à la John Woo avec son fauteuil roulant, donc c'est cool. on a également sur Sci-Fi Demolition Man de Marco Brambilla vendredi prochain avec Sly, Wesley Snipes et Sandra Bullock. Un film quand même qui est jubilatoire, moi je trouve bien.
Parodique, ce qu'il faut.
Excellent, avec la réplique qui tue et tout. Quoi ? Schwarzenegger est devenu président des États-Unis ? C'est pas possible.
Putain, je suis devenu couturière.
Et le film qui justement me fait me mélanger avec Conan, c'est Kalidor de Richard Fleischer, où on a justement les deux nanas qui sont avec Schwarzenegger dans le 1 et le 2 de Conan, c'est-à-dire Brigitte Nielsen et Sandal Bergman. Mais là, qui sont réunis dans le même film. Voilà,
et c'est normalement, pour ça que Kalidor, qui est censé être Sonia la Rouge, puisque c'est tiré 3, aussi de la mythologie de Conan.
2, 1. 13h59, c'est le supplément week-end, oh là là. Thomas, s'il te plaît, ceux qui sont égarés sur le stream ou sur la bande FM et qui sont tombés sur notre émission numéro 212 en plein milieu, est-ce que tu peux leur dire ce qu'ils ont loupé ?
Mais tout à fait, on a eu du samouraï, du manga fleuve, Shinano. Ouais, merci, il y en a deux qui suivent. Des pestes, des voitures, des motos, des vengeurs rebootés, des vies de merde, de la bonne succube chic des Romains, de la télé pour les filles, du film divers et éclectique, du western, du sauvage, du bon, du pourri, des pépettes, une bombe bastique et Tom Cruise paralysé, ça le fait.
Voilà, et retrouvez sur le site web tout plein de choses si vous avez manqué des trucs, par exemple les chroniques Rikit. Cette semaine, il y a eu le résumé de Juno, oula, ça faisait un bail, l'interview de Pop, les passagers du vent, la trilogie Sportsman, 16 blocs, Big Joe Turner, non ça c'est du sport, c'est dans 40 secondes, Echo Warrior et plein d'autres choses, supplémentweekend.fr pour le résumé et tout le reste, et en plus c'est trop génial, et sinon www.radio-fmr.net. La semaine prochaine, même heure, même fréquence, on ne saute pas cette fois-ci et on n'a pas de programme.
Qui ne saute pas n'est-ce pas supplément week-end, ouais.
On n'a pas le programme, voilà. Et on n'aura pas le temps pour l'agenda et tout le reste. Donc, ciao, bye bye. Rendez-vous la semaine prochaine. À plus. Et hop, j'emballe le tout. Allez. Et ceci dit, amusez-vous bien. À plus. Ciao. La souris est morte du sport. Éclate-toi bien, sang.